Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, daté du 22 juin 1994, rediffusé ce dimanche 1er juillet 2012 dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Bonsoir à tous, on va essayer de ne pas perdre de temps puisqu'on a beaucoup d'invités ce soir. Je vous en donne la liste afin que vous puissiez vaquer si les sujets ne vous intéressent pas. Le premier invité sera le professeur Bernard Lugan avec qui nous allons essayer de comprendre ce qui se passe au Rwanda. Ensuite, nous recevrons monsieur Henri de Lesquin qui est président du Club de l'Horloge ou secrétaire général, président du Club. Et qui nous parlera de la remise du prix Lysenko. Nous recevrons ensuite monsieur l'abbé Bayot et monsieur Triomphe qui nous raconteront une aventure assez étonnante de démontage et de remontage d'une chapelle abandonnée qui va devenir une chapelle traditionnelle. Ensuite nous recevrons André Figueras pour son dernier livre, puis Pierre Joubert qui est le dessinateur dont les chefs-d'œuvre ont bercé notre enfance et notre adolescence et même d'ailleurs notre âge adulte, puisqu'il est l'auteur des dessins de la série de Serge Dallens, Le Prince Eric, et de bien d'autres ouvrages de référence. Ensuite, nous recevrons Marie-Antoinette Mulot, la femme aux herbes, et puis Marie-Josée de Bravois. Avant tout, je voudrais donner lecture d'un petit peu de courrier. Une dame m'écrit « Je vous croyais parti de Radio Courtoisie et je m'en réjouissais, mais rentrant de vacances, je suis tombé sur votre émission du 15. Et là, c'était toujours la même haine, le même venin, vous ne pouvez pas sans méchanceté parler de ceux que vous n'aimez pas, à tel point que vous avez démoli ce pauvre Philippe de Villiers, lui enlevant même sa particule à plusieurs reprises. Quelle mesquinerie.
Oh, mon Dieu.
Vous prétendez, jaloux du stanement de votre cher Front National, virgule, que P. de Villiers prend les idées de Le Pen, ne riez pas, ces idées de morale, de droiture, de propreté, des millions de Français les ont sans pour cela porter les couleurs de votre LP, de plus en plus déplaisants d'ailleurs. Les messages favorables que vous recevez viennent de gens aigris comme vous. C'est dommage que vous ne sachiez pas dire les choses sans haine. C'est à cause de vous que j'ai annulé mon adhésion à Radio Courtoisie. J'y étais inscrite sous mon nom de jeune fille. Bon, alors je voudrais répondre en deux mots. Chère madame, d'abord, c'est pas vrai du tout que j'ai été méchant avec Villiers. Pas du tout une seule seconde. Et d'autre part, ce que vous dites, que les idées de morale, de droiture, de propreté de Villiers, des milliers de Français les partagent sans adhérer au Front National, c'est très exactement ce que j'ai dit. Donc il faut écouter avant d'engueuler le monde. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que seuls les roturiers donnent leurs particules aux gens quand ils s'adressent à eux sans la mention de leur titre. On dit monsieur le marquis de Villiers, monsieur de Villiers, monsieur Philippe de Villiers, mais on ne dit jamais de Villiers, on dit Villiers. Et au fond, vous le savez très bien, puisque vous avez adressé cette lettre à Bekech. Mais l'erreur que vous avez commise, c'est de mettre monsieur Bekech. Alors, on dit monsieur de Bekech, on dit monsieur le comte de Bekech, on dit monsieur Serge de Bekech ou Serge de Bekech, mais on dit Bekech. Voyez?
Tais-toi Bekech,
par exemple. C'est extrêmement simple. Donc, j'ai pas de haine du tout, comme pour De Villiers. Je l'aime beaucoup, ce grand garçon avec des grandes oreilles d'aéroplane. Il est extrêmement sympathique. Je vois pas pourquoi j'aurais la moindre haine pour ce pauvre De Villiers. Pour ce charmant De Villiers, pardon. Vous voyez, ça m'échappe quand même. Voilà. Enfin, je dois dire d'ailleurs que cette dame, contrairement, c'est pour ça que j'ai lu sa lettre, contrairement à 99% des cas, elle indique son nom et son adresse. Donc ça n'était pas une lettre anonyme, ce qui fait que je l'ai lu, ce que je ne fais jamais quand il s'agit de lettres anonymes. Sauf celle-là que je vais vous lire. Oui, mais pour une raison, je comprends pourquoi elle est anonyme. Monsieur de Bekech, voilà, lui, c'est. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour avoir lu ma lettre sur votre antenne mercredi dernier suite aux événements graves survenus dans le quartier de la Défense. Mes collègues, dont certains sont des amis, ont été sensibles à ce geste de votre part. Ces hommes et ces femmes policiers présents lors des émeutes sont eux aussi des jeunes, pères et mères de famille, agissant toujours dans un souci de professionnalisme. Nos collègues de couleur n'ont pas été épargnés par l'hystérie des bandes ethniques qui n'arrivent pas à concevoir qu'un homme de couleur puisse travailler au service de la sécurité des biens et des personnes. Ainsi, j'ai constaté à plusieurs reprises lors de l'interpellation ou de contrôle de ces jeunes qu'ils tentent d'abord d'amadouer mes collègues antillais ou d'origine nord-africaine en invoquant une pseudo-fraternité raciale, puis, comprenant que leurs couleurs sont bleu, blanc, rouge, ils les insultent en les assimilant à des collabos. Il est donc clair pour moi que ces jeunes veulent cantonner leurs semblables dans les rôles de casseurs, de racketteurs et de dealers, ce qui révèle une piètre estime d'eux-mêmes et un singulier mépris pour leurs frères. En outre, ce comportement prouve, la confusion qu'ils font entre appartenance ethnique ou tribale et nationalité. De plus, par vanité et par endoctrinement, ils refusent l'assimilation dans la communauté nationale, qui pour eux équivaut à la communauté des Blancs, sorte de tribu rivale dans laquelle se seraient glissés quelques traîtres en provenance de leur groupe ethnique. Aussi déroutant que puisse paraître le comportement raciste de ces individus, c'est bien ainsi que nous autres, policiers de la base, percevons quotidiennement les prémices de ce qui pourrait devenir demain une guerre civile en France. Eh bien, je vais vous dire, tant qu'on aura des policiers comme ça, on n'a pas trop de soucis à se faire rire. Hein, c'est quand même réconfortant. C'est d'une acuité de perception, cette lettre. Et puis, ça dit des choses qui me paraissent quand même très, très importantes. Voilà. Alors, je vais lire la lettre aussi d'un monsieur aigri, sans doute, puisqu'il dit « M'étant mis à l'écoute de votre libre journal du 1er juin, j'ai eu la grande et heureuse surprise d'y entendre votre voix, qui avait été absente si longtemps. Je vous en félicite. » Je suis également pleinement rassuré sur le sujet de votre santé. Votre émission du 1er juin atteste par son perçant que vos qualités intrinsèques se sont nullement émoussées durant le congé sabbatique que vous venez de prendre. Voilà. Et ce monsieur ajoute, ce que vous nous avez raconté des mésaventures du Cercle National du Combattant à Fréjus est proprement stupéfiant. Fourbissons nos sabres. Voilà. En ce qui concerne l'actualité, je voudrais revenir un instant sur les élections européennes parce que j'ai eu une idée comme ça qui m'a occupé l'esprit pendant quelques instants. Si je vous dis Bernard Lugan, Saint-Pierre et Miquelon, qu'est-ce que ça évoque en vous
Ça évoque les dernières parcelles et les confettis de notre empire américain du XVIIIe siècle.
Et vous, Henri de Lesquin?
J'aurais répondu la même chose, oui.
Moi, je sais pas, parce que chaque fois que j'entendais Saint-Pierre et Miquelon, je pense à l'héroïsme d'une partie du peuple français. Pour moi, étant donné le comportement qu'ils ont eu pendant la guerre, où toute l'île s'est engagée dans le combat pour la libération du pays, j'ai toujours assimilé Saint-Pierre et Miquelon et les habitants de Saint-Pierre et Miquelon à un peuple de héros. Et donc je me suis dit, comment votent les héros en 1994? Alors j'ai pris les résultats des élections à Saint-Pierre et Miquelon. Eh ben mes enfants, c'est pas étonnant que ce pays soit au fin fond de la misère. Voilà. Ils ont voté à 22,5% pour Tapie. C'est-à-dire que les habitants de Saint-Pierre et Miquelon, ils sont pas nombreux, ils sont je sais pas combien. 2500, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Un peu moins d'un quart des habitants, plus d'un cinquième des habitants ont voté pour Tapie. 34% ont voté pour Baudis. Ça veut dire que ce pays est réellement malade. Parce que Saint-Pierre et Miquelon, c'est à je sais pas combien de milliers de kilomètres. On peut pas dire qu'ils ont été sensibilisés par leur affût médiatique. À mon avis, ils lisent pas les journaux français. Oui, ils voient la télé, ils doivent avoir une demi-chaîne qui émet 3 heures par jour, et encore, c'est pas sûr. Non, je dis, ce pays est réellement malade. Quand 22% des habitants d'une île de l'autre côté de la Terre votent pour un Tapie, moi, je me demande si je vais continuer à me battre dans les rangs nationalistes. Je crois que je vais arrêter. Je vais aller élever des chèvres dans le Causse.
Ou à Saint-Pierre et Miquelon.
Ah non.
Pour relever le niveau.
J'avais déjà pas très envie d'y aller, mais alors maintenant c'est terminé. Il y a une chose qui est très très drôle, c'est que je cite souvent des choses très amusantes. Alors, Il y a un monsieur qui a trouvé une solution à la misère, à la crise en France. Et il dit, on trouve parfois un homme qui place son ambition au-dessus des intérêts étroits de son camp d'origine, et alors se constitue autour de lui un comité national de résistance où siègent gauche et droite restées elles-mêmes, mais se rencontrant dans l'intérêt du pays. À votre avis, ça c'est exactement la définition du roi, hein. Un être qui n'appartient à aucun parti, qui se met au-dessus des partis dans l'intérêt national et qui réunit autour de lui des gens venus de tous les horizons. Eh bien, ce nouveau royaliste de gauche, c'est monsieur Max Gallo, qui a publié dans Le Monde de ce matin, enfin d'hier soir, un article intitulé « Les masques de la gauche », dans lequel il explique finalement que la seule solution, c'est la contre-révolution. C'est quand même intéressant à savoir. Voilà, c'est à peu près tout ce que l'actualité d'aujourd'hui nous apporte de sympathique. Sinon, quand même, il faut le dire, samedi prochain, à l'amphibé Max-Paul Fouché de la faculté de Censier Paris 3, 17 rue de Santeuil, est organisé par la Libre Pensée. La Libre Pensée, c'est ce que c'est la Libre Pensée. C'est les vieux francs macatés. Alors ils font un procès contre le pape qui a été inculpé par eux de crimes contre l'humanité. Et génocide. Alors, si vous voulez assister...
Ce sont des anarchistes, je crois. La Libre Pensée, il me semble. J'ai rencontré autrefois un militant de la Libre Pensée. Il me semble que ce sont des anarchistes.
Anarchistes, athées, francs-maçons...
Oui, mais enfin, d'abord anarchistes, oui. Il me semble.
Alors, ils font un procès au pape, ces anards. Et on annonce la présence du docteur Mortibus, alias Monsieur 1%, alias Léon Schwarzenberg... donc si vous voulez aller applaudir Monsieur Schwarzenberg, n'hésitez pas, je vous rappelle que ça se passe de 9h à 14h à Censier, amphi B Max-Paul Fouché, 17 rue Santeuil, c'est samedi 25 juin de 9h à 14h. Il faut aller quand même assister au procès du pape.
Je crois qu'il faut saluer Monsieur Schwarzenberg, la dernière victime de Monsieur Bernard-Henri Lévy. Puisqu'il s'est lancé dans cette campagne en étant persuadé que tout le monde irait jusqu'au bout, que grâce aux médias et à Bernard-Henri Lévy, ils auraient plus de 5%. Et bien sûr, Bernard-Henri Lévy s'est retiré à temps.
Vous voulez dire par là
que... navire qui coulait. Alors ça fait toujours plaisir de voir que ces gens-là ne s'entendent pas entre eux. Je me suis laissé dire que Schwarzenberg avait été très dur avec Tapie à la télévision, oui, et que c'était assez réjouissant.
Ah, c'était extrêmement réjouissant. Hein. Mais vous voulez dire par là que Schwarzi, le bon docteur Mortibus, aurait
de bon côté, c'est même
de bon côté, mais surtout Monsieur BHL aurait en quelque sorte vengé les vieillards cancéreux.
J'essaie de voir le bon côté des choses. Et je trouve que les palinodies de la liste Sarajevo sont assez réjouissantes puisqu'elles ont conduit à couler Schwarzenberg et Rocard.
Enfin, écoutez,
c'est quand même une bonne opération.
Je trouve quand même bizarre que vous vous étonniez du côté Jean Foutre de ces guignols.
Je ne m'en étonne pas, je m'en réjouis.
Oui, ça fait très longtemps que ça dure. Alors, professeur Lugan, cette affaire du Rwanda, je ne dirais pas que c'est aussi inextricable que la Yougoslavie, mais... j'aimerais bien que vous nous aidiez à comprendre, parce que si quelqu'un est capable de nous faire comprendre ça, je pense que c'est vous, puisque vous avez été professeur à l'université de Rwanda de 1972 à 1983.
J'étais professeur d'histoire de l'Afrique et du Rwanda, oui. Pendant 11 ans au Rwanda, oui. Donc, j'ai rédigé mes deux thèses sur l'histoire de ce pays.
En plus, vous avez une connaissance parfaite du terrain, parce que vous êtes un explorateur, vous avez exploré le terrain, vous avez même pratiqué des coupes sombres dans la faune locale, je crois que...
Et je dirigeais également la mission archéologique française au Rwanda.
Et puis, la plupart des dirigeants du FPR...
sont mes anciens étudiants.
Ça sont d'anciens étudiants.
Une partie des étudiants que j'ai sauvés en février 73 du massacre, dans la nuit du 14 ou 15 février 73, j'étais obligé de rentrer armé à l'université pour sortir des gens du massacre. Et aujourd'hui, certains de ces étudiants sont parmi les commandants militaires du FPR.
C'est-à-dire
des Tutsis.
Oui, bon, bien. Voilà.
Alors le Rwanda, c'est un cas d'école, parce que le Rwanda est le contraire de l'Afrique. C'est le contraire de l'Afrique parce que nous sommes en présence d'une des seules nations du continent africain au sud du Sahara. Je crois qu'il y a deux nations en Afrique noire, il y a l'Éthiopie et il y a le Rwanda, le Burundi dans une moindre mesure. Et le Rwanda est une création de l'ethnie Tutsi. Parlons d'ethnie par commodité, pour moi ce n'est pas une ethnie, c'est une race. Parce que au Rwanda, seconde grande exception, alors que toute l'Afrique connaît des luttes ethniques, car tous les pays d'Afrique sont partagés en une infinité d'ethnies, au Rwanda, il n'y a que deux groupes humains, les Tutsis et les Hutus. Les Pygmées sont minoritaires, moins de 1%. Or, ces deux groupes parlent la même langue, ont la même culture, ont le même système de valeurs, avaient la même religion traditionnelle et avaient conscience d'appartenir à la même nation. Ce qui les sépare, ce n'est donc pas une réalité ethnique, au sens étymologique du terme, c'est autre chose. Qu'est-ce qui les sépare? Eh bien, c'est une différence raciale. Nous sommes là face à une guerre raciale, exactement comme celle qui se déroule entre les Touaregs et les populations noires de l'Ouest Afrique. Voilà le premier grand problème. Deuxième réalité, le Rwanda est le contraire de l'Afrique. Pourquoi? Parce que le Rwanda a ses frontières précoloniales. Les Tutsis commencent à constituer le Rwanda au moment où les Capétiens commencent à constituer la France. Et à peu près selon le même principe, une île de France, une île du Rwanda, au centre du Rwanda, autour du lac Moasi. Le phénomène débute un peu plus tard que le phénomène capétien, il débute vers le 12e, 13e siècle, et petit à petit les Tutsis constituent le Rwanda. Et le Rwanda, lorsque les Allemands y arrivent en 1896, a les frontières qui sont les siennes aujourd'hui, à peu de choses près. Donc, nous sommes dans un cas d'école, qui est que nous avons affaire à une authentique nation dans laquelle il n'y a pas un émiettement ethnique et qui n'a pas eu des frontières héritées de la colonisation. Eh bien là, nous avons affaire à un massacre absolument épouvantable qui est un massacre qui repose sur une opposition raciale.
Alors est-ce qu'un des autres moteurs de l'opposition ou un autre moteur de l'opposition n'est pas, plutôt est-ce qu'un des autres motifs d'opposition n'est pas le fait que les Tutsis sont en quelque sorte l'aristocratie et les Hutus, la plèbe?
J'y viens. Jusqu'en 1955-56, le pouvoir Tutsi s'est maintenu intact. Les Tutsis sont 20%, les Hutus sont 60%, et il y a à peu près 20% d'individus qui, au gré des circonstances, se disent Tutsi ou Hutu. Quand les Tutsis sont au pouvoir, ils sont Tutsi. Quand sont les Hutus, ils se disent Hutu. Jusque dans les années 55, le pouvoir Tutsi se maintient intact. Il se maintient intact parce que le roi Mutara s'est converti dans les années 30 au catholicisme, et l'alliance étroite entre les missions, la Belgique, puissance mandataire, et la couronne, a fait que les Tutsis ont vu leur pouvoir traditionnel maintenu. Et à partir des années 1955, au Rwanda a soufflé le vent du progressisme chrétien. Ce vent du progressisme chrétien qui a emporté l'Église catholique en Europe et qui s'est traduite également dans les églises missionnaires et dans les zones de mission. Ce qui fait que du jour au lendemain, les missions, les églises missionnaires, l'Église catholique au Rwanda a complètement changé d'attitude et complètement changé de politique. L'Église au Rwanda, qui jusque-là soutenait les Tutsis, a trahi les Tutsis et s'est mis à soutenir les Hutus. Les Hutus qui ont été encouragés dans les missions et les églises qui sont devenues des centres de subversion anti-Tutsi. Et ceci a été organisé en grande partie à Kabgayi, qui était le siège de l'évêché, et un des instigateurs de cette politique, c'était un évêque suisse, un missionnaire, Monseigneur Perraudin, et la révolution de 1959 a été perçue par les Tutsis comme une trahison et de la Belgique et de l'Église catholique. Les Tutsis ont été massacrés une première fois entre 1959 et 1961, et les premiers émigrés Tutsis sont partis dans la direction de l'Ouganda. Et ils étaient environ 150 à 200 000. Et ce sont leurs descendants, ce sont leurs fils ou leurs petits-fils, qui aujourd'hui reviennent sous la forme de cette contre-attaque militaire organisée autour du FPR, le Front Patriotique Rwandais. Un État rwandais qui existe donc depuis grosso modo le 13e, 14e siècle, qui est désintégré au moment des indépendances, car avec ses idées démocratiques qui gouvernent le monde depuis les années 1950, il n'était plus normal que 80% de la population soit dominée par 20%, et les 20% qui étaient les cadres politiques, ceux qui avaient constitué le pays, ceux qui étaient les fondateurs de cette nation rwandaise, ont été placés dans un état de dépendance et d'humiliation, eh bien aujourd'hui, ils prennent leur revanche historique.
Alors on dit beaucoup, on a vu dans beaucoup d'articles que la France avait une responsabilité énorme dans la situation actuelle.
Je vous arrête, la France socialiste. Là, il faut être très précis parce que j'ai très très bien connu et vécu ces événements. J'ai été, si vous voulez, expulsé du Rwanda par la coopération française, en 1983, car j'ai été le premier à m'opposer à cette politique de réorientation de l'aide française au profit du clan du futur général Habyarimana. Et j'ai été mis à la porte du ministère de la Coopération à ce moment-là, et les responsables qui m'ont mis à la porte, ceux qui avaient initié cette politique, ont involontairement du sang sur les mains, car tout est parti d'un fait bien précis que je vais vous raconter maintenant. Jusqu'en 1981, le ministère de la Coopération était en partie contrôlé par des vieux coloniaux, donc par des gens qui connaissaient l'Afrique. Des anciens administrateurs des colonies, des anciens gouverneurs des colonies, personnels qui avaient véritablement, intimement connu l'Afrique, et qui, dans le cas du Rwanda, avaient pris garde de ne pas intervenir dans une querelle clanique. Parce que les Hutus, qui sont 80%, ne constituent pas un bloc homogène. Ils sont divisés en deux grands camps, les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Les Hutus du Nord, qui sont des extrémistes Hutus, et ces Hutus du Nord ont pris le pouvoir en 1973, en juillet 73, car l'indépendance, qui est intervenue en 1962, s'était faite au profit des Hutus du Sud. Et de 1962 jusqu'au 1er juillet 1973, ce furent les Hutus du Sud qui gouvernèrent le Rwanda. Le colonel, bientôt général Habyarimana, Hutu du Nord, fit un coup d'État le 1er juillet 1973, et ce furent les Hutus du Nord qui arrivèrent au pouvoir. Et la coopération française, jusqu'en 81, maintint une barque, un poids à peu près égal, entre les deux composantes du peuple Hutu. À partir de 1980, les socialistes arrivent au pouvoir en France. Tout change. Tout change pourquoi? Parce que les socialistes français, qui désormais vont coloniser, pirater, cannibaliser le ministère de la coopération, vont avoir, je le disais dans un article du Figaro, les yeux de chimène pour les Hutus du Nord. Car les Hutus du Nord avaient été ceux qui, les premiers, avaient renversé le pouvoir royal et féodal Tutsi. Donc, les premiers républicains du Rwanda ne pouvaient qu'être courtisés, ne pouvaient qu'être énamoureusement regardés par les descendants des conventionnels français qui arrivaient au pouvoir en 81. Et la France, à partir de ce moment-là, a totalement réorienté son aide vers le Nord. Prenons un exemple très simple. L'université qui était installée dans le sud du Rwanda déménage. La France oblige les Rwandais à accepter le déménagement de l'université pour faire plaisir au clan du président. La France installe une école de gendarmerie sur le territoire du clan du président. La France, véritablement, va au-devant de tous les souhaits du clan du président, des Hutus du Nord, et la France, à partir de ce moment-là, est engagée autour des combats du clan du président. Et de fil en aiguille, la France a son sort politique au Rwanda, lié à cette funeste politique qui est dégagée après 1981, et très précisément à partir de 1982, quand est nommée à l'ambassade du Rwanda une personne qui, jusque-là à Paris, initiait cette politique, et cette personne est nommée à l'ambassade de France au Rwanda, et elle peut tout à fait mettre en pratique cette politique. Et là, nous sommes à l'origine de cet engagement français au profit, non pas des Hutus, au profit d'un clan Hutu, qui est précisément le clan des assassins, qui était autour du président. Le président était un brave homme, moi je le connaissais bien, j'ai été plusieurs fois à la chasse avec lui, c'était un brave homme. Mais son clan était un clan totalement extrémiste, et l'on a bien vu comment ce clan a totalement assassiné, a éliminé la population Tutsi et les Hutus du Sud qui étaient dans l'opposition.
Alors dernière question, que pensez-vous de l'attitude actuelle du gouvernement français, de son entêtement à vouloir intervenir là-bas contre la volonté à peu près unanime de la communauté internationale et en tout cas contre la volonté de la majorité des Rwandais?
Position à la fois insolite et incohérente. Elle est insolite et incohérente d'abord parce que le gouvernement actuel n'est pas responsable de la situation. Le gouvernement actuel a hérité d'une situation léguée par les socialistes. Le gouvernement actuel n'a pas trop mal joué dans les premiers temps, parce que la signature des accords d'Arusha était en grande partie l'œuvre de la diplomatie française, car il y a un an, lorsque l'actuelle majorité arrive au pouvoir, il y a quand même dans cette actuelle majorité des gens qui connaissent l'Afrique et qui se rendent compte que ce qui s'est passé au Rwanda est absolument aberrant. Et ils vont essayer, si vous voulez, non pas de changer complètement de politique, parce qu'il y a un héritage qui se fait, il y a quand même un héritage politique qui doit être maintenu au niveau de l'État, mais ils vont essayer de limiter la casse. Et dans un premier temps, la situation se déroule à peu près bien. Mais ce qui devient incohérent et insolite, c'est de voir la France, qui a été partie prenante dans le conflit rwandais, en soutenant, j'allais dire, les mauvais, je ne dis pas que les autres soient des bons, mais en soutenant les plus mauvais, la France qui se fait aujourd'hui le porte-parole de cette intervention militaire. Et c'est incohérent. Pourquoi ? Parce que l'on nous dit que la France va intervenir pour sauver les Tutsis. Mais la France qui va intervenir pour sauver les Tutsis intervient précisément dans des zones où il n'y a plus de Tutsis, où ils ont tous été massacrés. La France est en train de se prépositionner où ? À Goma, au Zaïre. Goma est le point de ravitaillement de l'armée Hutu, tout le monde le sait. Il suffit d'être présent à Goma pour qu'automatiquement les Tutsis vous accusent d'être de mèche avec les Hutus. Et du côté rwandais, quelles sont les zones qui font face à Goma ? Il y a la zone de Gisenyi. Dans cette zone de Gisenyi, il n'y a plus un Tutsi. Ils ont été massacrés jusqu'au dernier. Il n'y en avait pas beaucoup, déjà. Donc, l'on ne va pas pour sauver les Tutsis, puisqu'ils sont tous morts. Si l'on voulait sauver les Tutsis, il faudrait larguer des parachutistes sur Kigali. Il faudrait larguer des parachutistes sur la zone de Butaré, où il reste encore, selon les informations que j'ai reçues par le Burundi hier, il y aurait encore à peu près 1500 Tutsis qui seraient sur la place face à la prison de Butaré, qui sont tués les uns après les autres. Alors là, bon, alors qu'on largue 500 parachutistes, là, on pourrait sauver les Tutsis. Mais d'intervenir depuis le Zaïre, c'est une fumisterie, je dirais même c'est une foutaise, et c'est une escroquerie, parce qu'il n'y a plus de Tutsis, ils sont tous morts. Les Hutus les ont tous tués. Alors, résultat de l'opération, c'est que nous allons une fois de plus intervenir pour soutenir les Hutus. Parce que le fait de l'intervention militaire française, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, va aboutir à geler la situation. Et va aboutir à dégager l'armée rwandaise Hutu qui va pouvoir intervenir contre les Tutsis qui sont peu nombreux et qui ont l'avantage militaire. Et de même qu'en 1990, de même qu'en 1991 et de même qu'en 1992, c'est l'intervention militaire française décidée par le gouvernement socialiste qui a empêché les Tutsis de remporter la victoire militaire, car ils ont été arrêtés aux portes de Kigali à la hauteur des briqueteries, juste à la hauteur de l'aéroport de Kanombé, par la Légion, puis ensuite par l'infanterie de marine. Eh bien, nous allons refaire la même chose. Et c'est pour cela que les Tutsis sont furieux, car les Tutsis, qui sont des gens à la longue mémoire, sont en train de gagner militairement. Ils sont en train de remporter la victoire militaire, ils ont disloqué l'armée Hutu, et plus grave encore pour les Hutus du Sud sont en train de se détacher du clan Hutu du Nord, et ont fait des avances politiques. Car ce qui va probablement se passer, c'est une, si la France laisse faire, c'est une victoire militaire et politique des Tutsis, alliés aux Hutus du Sud. Mais la France va totalement perturber ce phénomène. Et l'armée française qui va intervenir, d'abord, l'armée française qui va intervenir ne sera pas capable de distinguer un Tutsi d'un Hutu. Comment voulez-vous que nos unités qui arrivent de Centrafrique ou qui arrivent de l'Est de la France soient capables de distinguer un Hutu d'un Tutsi en leur frappant des vessies pour des lanternes? Et nous allons perturber là une situation militaire dans la mesure où nous allons être perçus par les Tutsis comme des empêcheurs de remporter une victoire. Parce qu'il est trop tard pour intervenir. Les Tutsis sont morts. L'on va au maximum sauver quelques centaines, quelques milliers d'individus. Mais pour sauver quelques centaines ou quelques milliers d'individus, nous allons dans l'enlisement. Et nous allons nous mettre à dos ceux qui vont être les gouvernants de ce pays demain. Ce qui fait que la politique française est une politique qui, dans la région, va être totalement vitrifiée. Plus grave encore. Pendant des années, l'on nous a dit que Mobutu est un dictateur. Pendant des années, la presse française s'est déchaînée contre Mobutu. Pendant des années, on nous a dit que Mobutu était le malheur du Zaïre, et que si le Zaïre était un pays en état de perdition, c'est à cause de Mobutu. Et voilà que notre gouvernement est en train de lécher littéralement les pompes de Mobutu, et Mobutu apparaît comme un pacificateur, et apparaît avec un rôle tout à fait extraordinaire, puisqu'il est la base arrière de l'intervention française qui est en train de se prépositionner à Goma. Alors, je me demande véritablement si, au ministère de la Coopération, il y a des gens qui connaissent cette région et qu'il y a des gens qui sont au fait des finesses et des complexités de la situation rwandaise. Nous sommes là, gouvernés par des incompétents. Je le dis, mais solennellement, car je connais ce pays, je le connais intimement. Nous avons affaire soit à des incompétents, soit à des gens qui sont mus par des pulsions médiatiques. Il faut aller au Rwanda pour telle ou telle raison médiatique, mais politiquement, nous courons à la catastrophe. Le but que nous recherchons ne sera pas atteint, et ce sera même le contraire de ce que nous cherchons.
Alors, j'apporte un élément, un point de détail qui peut permettre d'apprécier, enfin d'apporter une explication supplémentaire, c'est que le ministère de la Coopération est totalement entre les mains de la franc-maçonnerie, depuis le plus haut jusqu'au plus bas du ministère. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est que la plupart des chefs d'État africains sont des dignitaires maçonniques et qu'ils préfèrent discuter avec des frères qu'avec des profanes.
Mais voyez-vous, en 1982, dans le bureau de l'ambassadeur de France au Rwanda, il y avait l'ambassadeur de France au Rwanda, il y avait le conseiller culturel et le chef de la mission de coopération. Là, on m'avait convoqué pour me dire, maintenant vous cessez de vous opposer au transfert des activités françaises du sud du pays dans le nord ou bien vous prenez l'avion. Vous me connaissez, je ne suis pas du genre à céder. Et j'ai tenu le discours suivant, donc à l'ambassadeur, au chef de mission, au conseiller culturel. Je leur ai dit, je connais intimement le Rwanda. Ce que vous êtes en train de faire est absolument criminel. Criminel parce que ce n'est pas soutenir les Hutus que vous allez faire, ce que vous faites. C'est que vous allez soutenir un clan Hutu, qui est un clan haï au sein de la population Hutu. Vous allez soutenir un clan qui est un clan d'extrémistes. Et ce clan, un jour ou l'autre, va se comporter comme se comportent les extrémistes. Et tout le monde a ri, nous étions à l'époque de la tornade rose. J'ai pris l'avion, j'ai donc été expulsé, vidé du ministère de la Coopération, rayé des cadres, et nous voyons aujourd'hui ce qui se passe au Rwanda.
Merci professeur Lugan. Alors je signale à nos auditeurs que s'ils veulent en savoir encore plus, vous venez de publier le numéro 4 de l'Afrique réelle.
De la revue L'Afrique réelle, oui.
Qui est la seule revue africaniste sérieuse apparaissant actuellement en France. Et c'est un dossier consacré au Rwanda, qui fait 50 pages, plus des cartes, comme vous en avez la spécialité, qui sont passionnantes et très détaillées. Et avec également un article sur l'Afrique du Sud après les élections. Alors ce numéro 4 vaut 150 francs franco. On peut le commander à la boîte postale numéro 6, 03 140 Charroux, C-H-A-2-R-O-U-X. Boîte postale 6 03 140 Charroux, 150 francs. Et si on veut s'abonner à l'Afrique réelle qui paraît tous les trimestres, on peut verser le montant de l'abonnement qui est de 360 francs.
Une dernière précision pour les nombreux abonnés de la région parisienne qui nous écoutent. Le numéro 4 va leur parvenir dans les 15 jours de façon à ce que je ne reçoive pas des dizaines de lettres demain en me disant « Vous avez parlé de la lettre du numéro 4, mais nous l'avons pas reçu. » Le numéro 4 est en cours de routage.
Alors, je crois que je vous donne la parole tout de suite, Henri de Lesquin. Je crois qu'il y a une incompréhension parce qu'un auditeur dit « Mais vous nous dites que les Tutsis peuvent remporter la victoire sur les Hutus et vous nous dites qu'ils sont pratiquement tous morts. Non, dans la région,
oui,
ce que
oui,
vous voulez
bon,
dire,
alors, une précision.
Ils sont morts dans la région où la France
le FPR Tutsi est composé des fils des émigrés de 1959-1961 qui rentrent au pays. Ceux qui ont été massacrés, ce sont les Tutsis qui n'ont pas fui le Rwanda à la suite des 3 ou 4 massacres de ces 30 dernières années. Et ceux-là sont morts, il n'y en a plus. Ceux qui sont encore en vie sont ceux qui ont eu le bonheur et la chance de vivre dans les zones qui ont été rapidement conquises par le FPR Tutsi. Et si la France n'était pas intervenue militairement en 1990 pour soutenir le gouvernement Hutu, nous n'aurions pas à déplorer 300 ou 400 000 morts, car les Tutsis étaient au bord de Kigali, ils auraient repris le pouvoir, ils auraient certainement épuré, mais ils n'auraient pas tué 400 ou 500 000 personnes, et les Tutsis existeraient encore en tant qu'ethnie.
Merci. Henri de Lesquin ?
Oui, je voudrais ajouter deux remarques, mais dire d'abord que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt cet exposé passionnant de Bernard Lugan, et dire que Bernard Lugan est le grand spécialiste de l'Afrique, que c'est vraiment ses ouvrages qu'il faut lire et consulter lorsqu'on veut savoir la vérité sur l'histoire de l'Afrique, et même sur l'actualité de l'Afrique. Il faut lire Afrique, l'histoire à l'endroit, bilan de la décolonisation. Je crois que c'est une lecture indispensable si on s'intéresse à ce sujet, qui est d'ailleurs un grand sujet, hein. Pour le 21e siècle, il y a deux grands sujets géopolitiques, me semble-t-il, qui nous concernent. Au premier chef, c'est l'islam et l'Afrique noire. Hein, deux grands sujets.
Et qui sont parfois très liés.
qui sont d'ailleurs très liées, mais qui ne se recouvrent pas exactement. Alors je voudrais ajouter deux remarques. Je pense que la démocratie est une bonne chose pour les Occidentaux, mais c'est un produit occidental difficilement exportable, pour ne pas dire inexportable. Et que lorsque les pays occidentaux détruisent les structures traditionnelles des sociétés africaines pour installer des institutions de type occidental, ils font le malheur des Africains. Et on parle du Rwanda actuellement et on voit tous les massacres qui se produisent. Tremblons en pensant à ce qui peut se passer et à ce qui va peut-être se passer en Afrique du Sud. Car le cas de l'Afrique du Sud, Bernard Lugan est un grand spécialiste de cette question, qu'il a bien étudié, presque autant que le Rwanda, je pense. Le cas de l'Afrique du Sud est beaucoup plus complexe que celui du Rwanda. Au Rwanda, il n'y a que deux ethnies, une nation à peu près consolidée, tandis que en Afrique du Sud, dans l'illusion générale, on a installé au pouvoir des communistes. Car alors que partout on déplore le retour au pouvoir d'anciens communistes, je veux dire en Europe de l'Est, d'anciens communistes édulcorés qui ont en fait renié le communisme et qui étaient dans le parti communiste parce que c'était une façon de faire carrière, en Afrique du Sud, ceux qui sont arrivés au pouvoir sont des communistes de la première génération,
Henri de Lescane,
ceux qui ont fait la révolution.
12 ministres communistes sur les 27 ministres du gouvernement.
Absolument, au moins, sans compter les cryptos. Sans compter les cryptos. Bon, c'est effrayant, c'est effarant. Et ceci avec la complicité et le soutien des pays occidentaux, au premier rang desquels les États-Unis d'Amérique. Alors, quel est le dogme communiste? Le dogme communiste, c'est d'ignorer les réalités historiques et ethniques. En fait, même si on s'en accommode plus ou moins pour arriver au pouvoir, l'ANC est un parti qui fonde son unité sur la négation des différences entre les Xhosa, les Zoulous, les Vanda, etc., etc. Alors ça a marché. Pourquoi est-ce que ça a marché? Quel a été le facteur d'unité en Afrique du Sud entre ces gens d'ethnies différentes? C'est très simple, la haine du blanc. C'est le facteur racial qui, dans un premier temps, l'a emporté en Afrique du Sud sur le facteur ethnique. Ce qui a pu réunir une bonne partie des Zoulous et les autres ethnies contre ce qui a pu les pousser à voter en faveur de l'ANC, bon, le vote a été truqué, c'est évident, mais quand même, l'ANC avait un véritable soutien et a un véritable soutien populaire parmi les masses noires. Pourquoi? Mais parce que ces gens-là ont voté pour le parti qui a tué les Blancs, qui est contre les Blancs. Et on a nommé, vous parliez des ministres communistes, je ne sais pas si celui-là est communiste, mais on a nommé comme ministre de la Défense le chef des terroristes, celui qui faisait poser des colliers de feu sur les collaborateurs du gouvernement sud-africain autrefois. C'est absolument sidérant. Et tout le monde est content. Alors la communauté financière internationale se réjouit de ce qui se passe et est complètement dans l'illusion.
Mais ça va claquer.
Alors ça va claquer, personne ne sait au bout de combien de temps.
Mais ça va claquer.
Si c'est dans 6 mois ou dans 20 ans, je pense que ce sera plutôt 6 mois que 20 ans, en tout cas quelques années. Ça va très mal se terminer. Et je crois qu'il faut faire une croix sur l'Afrique du Sud, malheureusement. La faute première, d'ailleurs, en l'occurrence, en revenant aux Sud-Africains, je veux dire aux Blancs d'Afrique du Sud, qui se sont suicidés en approuvant à deux reprises, au moins, ou même à trois reprises, le Parti National et Monsieur De Klerk, qui est un fou furieux, c'est un fou furieux. Enfin, je veux dire, il a l'air calme comme ça, mais il est complètement inconscient. Il a suicidé son peuple, Monsieur De Klerk. Mais après tout, il a obtenu l'assentiment de ces gens qui, paraît-il, finalement sont complètement corrompus par un niveau de vie très élevé, qui vivent comme des rentiers avec les revenus des mines d'or, etc., et qui finalement ont baissé les bras le jour où les églises protestantes retrouvent le facteur religieux. Les églises protestantes, enfin l'église réformée, l'église hollandaise, comme elle s'appelle, a changé son fusil d'épaule et a décidé que les Afrikaners, au lieu d'être le peuple élu, ce qu'elle disait jusqu'alors, était le peuple coupable. Alors d'un seul coup, ils se sont mis à battre leur culpe et ce fut fini. Pratiquement, enfin, c'était une question d'année. Alors, j'avais une autre remarque à faire, mais j'étais un peu long sur la première, je vais essayer de plus bref sur la seconde. Je crois que ce qui est grave, enfin, excusez-moi, ce qui est grave, à côté de toutes les maladresses que vous avez montrées dans l'affaire de l'intervention française ou de la tentative d'intervention au Rwanda, c'est que maintenant, pour intervenir dans ce qui devrait être notre arrière-cour africaine, il faut lever le doigt pour demander la permission à l'ONU, c'est-à-dire aux Américains. Nous sommes devenus un protectorat américain. Monsieur Mitterrand et Monsieur Balladur n'envisagent pas de faire une intervention dans un pays francophone. À la rigueur, nous aurions pu demander l'accord des Belges, peut-être, puisque quand même c'est une ancienne possession des Belges. Peut-être même des Allemands si on remonte dans le temps. Mais demander l'accord de l'ONU et des Américains pour aller là-bas c'est complètement scandaleux. Enfin, c'est une diminution, c'est accepter une capitis diminution de la souveraineté française, après beaucoup d'autres, et dont la plus grave est le traité de Maastricht. Donc c'est extrêmement grave. J'ajoute que ce qu'on appelle le militaire humanitaire est une fumisterie. Ce qui fait la politique, c'est de définir un ennemi. Ce qui fait a fortiori la guerre et l'intervention militaire, c'est de savoir pour qui on combat, et contre qui on combat. Bon. Alors, en l'occurrence, ou bien on combat avec le gouvernement ou tout du nord ou du sud, je ne sais plus, du nord, contre les autres, contre les Tutsis et tout du sud, ou bien on combat avec... la notion de force d'interposition n'a absolument aucun sens, et à chaque fois elle conduit à des catastrophes, que ce soit au Liban, enfin des catastrophes. Elle est même ridiculisée, elle nous ridiculise, que ce soit en Bosnie, au Liban ou ailleurs, hein.
Et là, nous avons affaire en plus à une guerre qui est une guerre sans merci, dans laquelle nous allons faire intervenir nos soldats, et nous allons nous retrouver très facilement passer d'une politique d'aide humanitaire à une politique de maintien de l'ordre, parce que nos hommes vont tout de même se faire tirer dessus, il faudra qu'ils se défendent. Les images dans les télévisions vont être déplorables. Lorsqu'on va voir les soldats français qui vont être obligés de se défendre en tirant sur ceux qui les ont agressés, nous allons voir très exactement la situation de la Somalie, où l'on a vu les troupes pakistanaises qui étaient obligées de tirer sur la foule qui manifestait devant leur quartier général à Mogadiscio. Et il y a encore cette accumulation d'erreurs et d'incohérences. Je reviens sur le cas du Zaïre. L'on nous disait il y a encore quelques mois qu'il fallait que Mobutu s'en aille. Et là maintenant nous en sommes, au nom de l'humanitarisme, à courtiser Mobutu, que nous dénoncions pour son non-respect de la démocratie.
En fait, les gouvernements occidentaux veulent faire quelque chose parce que les médias... mettre en lumière les horreurs qui se produisent au Rwanda.
Oui, Henri Bosquin, ça me ramène à un des premiers propos que vous avez tenu à ce micro tout à l'heure. Vous avez dit que la démocratie est une bonne chose pour l'Europe. Moi, personnellement, je suis convaincu du contraire. Et c'en est la démonstration.
C'est le début du dialogue.
C'est-à-dire qu'on est en plein dans un phénomène de démocratie ou de démédiacratie ou de démomédiacratie, je sais pas comment il faut appeler ça, où les prétendus représentants du peuple qui ne représentent rien du tout que les intérêts d'une bande armée, littéralement, de macro-financiers.
Ce n'est pas la vraie démocratie, voyons.
Ne laissez pas croire. Pas du tout.
Allez voir en Suisse, voir en Suisse ce qui se passe avec
c'est
le référendum.
La même chose, exactement.
Pas du tout, non.
Enfin, écoutez, on ne peut pas prétendre sérieusement que la démocratie fonctionne où que ce soit en Europe. Et alors, en Suisse, où
elle vient de fonctionner relativement bien en Italie, au moins pour une fois.
Ben, je trouve pas du tout. Je trouve que les résultats des élections italiennes sont consternants.
Moi, je m'en réjouis. Pourquoi sont-ils consternants? Alors là, je m'étonnais beaucoup.
On a remplacé des voleurs par des imbéciles. Je suis pas certain qu'on y ait gagné réellement. C'est mon opinion et je la donne. Je pense que Berlusconi est entouré de gens parfaitement incapables, qui sont en plus en train de trahir joyeusement tous les motifs pour lesquels ils ont été portés au pouvoir. Quand on voit Fini, qui est littéralement obsédé par l'idée de ne pas passer pour un néo-fasciste, un post-fasciste, un proto-fasciste, un parafasciste, c'est devenu une obsession. Ce type-là va faire absolument n'importe quoi. Il va trahir tout ce qu'il va pouvoir pour essayer de se dépatouiller de l'accusation de fascisme. Et je suis obligé de faire le parallèle avec ce qui se passe en France avec Villiers. Villiers a eu un très beau résultat aux élections, mais Villiers n'a qu'une obsession, c'est de cracher sur la vraie droite en disant « Je n'ai rien à voir avec ces gens-là, ce sont des fascistes. » Il faut absolument qu'ils se dépatouillent de ça. Et ça, c'est le résultat
démocratique. Moi, je pense qu'il faut l'union de la droite, et que pour faire l'union de la droite, il faut être indulgent avec les uns et avec les autres. Il faut essayer de louvoyer, enfin pas de louvoyer, c'est un mauvais terme, mais de ne tomber ni dans le sectarisme ni dans l'opportunisme, pour en prendre des mots en isme. Alors c'est vrai qu'il y a des gens, je crois que d'abord qu'il faut créditer a priori les gens de sincérité, de bonnes intentions, etc. Même s'ils ne font pas les mêmes choix que vous.
Enfin, écoutez, je suis convaincu. Pardonnez-moi de vous couper une seconde. Quand vous entendez à Monsieur de Villiers, est-ce que vous envisagez d'accepter des alliances sur le plan technique avec Monsieur Le Pen à l'Europe, et que Monsieur Villiers répond, je me sens insulté par votre question, il faudrait quand même s'entendre, c'est pas les gens du Front National qui insultent Monsieur Villiers à travers ça, c'est Monsieur Villiers qui dit des choses qui sont extrêmement désobligeantes et qui sont insultantes. Et quand Fini dit, je ne peux pas m'associer avec Le Pen parce que en Italie, si j'appliquais les projets de Le Pen, on me traiterait de raciste, mais enfin, c'est se foutre du monde. Fini est parfaitement au courant de la réalité du programme du Front National, et par conséquent, il fait semblant de croire aux arguments que les ennemis du nationalisme.
Moi, je plaide pour l'union de la droite. Et l'union de la droite,
malheureusement, des gens qui ne veulent pas.
Non, mais bon, la situation politique est celle que vous savez. les médias sont tenus par des ennemis de la France et de la démocratie, et c'est la situation actuelle. Bon, alors, fini comme d'autres, en s'accommoder de cette situation, et louvoient, eux, c'est bien le cas de le dire, pour échapper à la diabolisation ou à l'ostracisme, tel que ceux qui tiennent... ceux qui tiennent le micro ou la caméra de TF1 sont capables de l'appliquer à leurs adversaires. Bon, voilà ce qui se passe. Alors, je ne crois pas que ce soit... bon, il y a peut-être eu, il y a même certainement eu des propos malheureux. Hein. Mais en politique comme ailleurs, il faut pratiquer sinon le pardon des offenses, du moins l'oubli, pour voir ce qui se passera plus tard. Hein. Bossi, après tout, Umberto Bossi, qui est chef de la Ligue Lombarde, la Ligue du Nord, s'est bien allié avec Fini et Berlusconi après avoir dit pique-pendre d'eux. Moi, j'espère que malgré tous les mots d'oiseaux qui s'échangent entre les uns et les autres à droite, eh bien, un jour, il faudra bien que la raison l'emporte et que les alliances se fassent. Je crois que ce qui est important dans les élections européennes comme dans les élections italiennes, si vous voulez, c'est la destruction du système. Alors c'est une étape peut-être, ce n'est pas assez.
Oui, mais le problème, c'est que les noms d'oiseaux ne s'échangent pas. Pour l'instant, les salves viennent du même camp. Monsieur Le Pen ait dit quoi que ce soit, écoutez, plus obligeant pour Monsieur Duvigné.
Écoutez, le Club de l'Horloge a publié autrefois, il y a quelques années, un livre qui s'appelle Socialisme et fascisme, une même famille. Pourquoi? Parce que depuis la Seconde Guerre mondiale, et en fait même avant la Seconde Guerre mondiale, la gauche et les socialistes ont fait croire que le fascisme c'était par définition une doctrine de droite. Alors historiquement, c'est complètement faux. Vous savez que Benito Mussolini,
socialiste,
il était socialo-communiste puisque c'était avant la division des partis socialistes en deux, partis socialistes et partis communistes. Mais il était en 1914. Avant de fonder donc le parti fasciste, il était directeur de l'Avanti, c'est-à-dire de l'Humanité, enfin l'organe officiel du parti socialo-communiste italien. C'était le Roland Leroy, si vous voulez, je ne sais plus quel est le successeur de Roland Leroy, vrai dire, peu importe.
Il est mort.
Je ne crois pas qu'il soit mort, Roland Leroy.
Ah non, Roland Leroy.
Il a été remplacé comme directeur de l'Humanité.
Ce sont des gens morts, de toute façon.
Mais, ah oui, d'accord. Et donc ce qu'il faut, quand on regarde les itinéraires personnels et quand on fait l'analyse, surtout ce qui est plus important de l'évolution des idées, on s'aperçoit que le fascisme est une doctrine profondément socialiste. Alors, à certains égards, les marxistes qui sont passés au socialisme ont voulu faire ce que Stirnel a appelé un rehaussement éthique du socialisme. Ils se sont aperçus que la nation c'était plus important que la classe sociale. Et d'ailleurs, la Première Guerre mondiale a été décisive. Parce que, alors que la doctrine officielle des partis social-démocrates, c'était la paix entre les peuples, même si le pays doit accepter la défaite, eh bien non, les peuples ont préféré la nation...
Dès la Première Guerre mondiale.
Dès la Première Guerre mondiale.
Puisque j'aurais serré cette position socialiste.
Et alors, les socialistes, une partie des socialistes de l'époque, on se sont aperçus, donc, effectivement, il fallait réviser le marxisme et, en fait, l'abandonner. Et ça a été l'origine du fascisme. Alors, je ne dis pas ça pour apprécier davantage ou critiquer davantage le fascisme. Je crois surtout que le fascisme est un phénomène historiquement daté. Nous sommes maintenant dans une époque complètement différente. Donc quand Gianfranco Fini dit à la fois, il dit deux choses. Il dit d'abord, Mussolini était un grand homme d'État, le plus grand homme d'État d'Italie pour le XXe siècle. Et puis il dit aussi, mais je ne suis pas fasciste. Et je crois que les deux sont vrais dans sa bouche. C'est-à-dire que il sait bien que le fascisme est dépassé. Quoi. Les théories socialistes du fascisme et antidémocratiques ne correspondent plus aux aspirations des Italiens et des autres peuples.
Cela dit, il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, en Europe, on voit à la fois une montée des nationalismes, je dirais, au meilleur sens du terme, c'est-à-dire un réveil des consciences nationales.
Voilà. Et même des identités locales. En Italie, c'est très intéressant. Vous savez que la Ligue Lombarde, la Ligue du Nord, qui est une des formations de la coalition, a fait son succès l'enracinement local, la défense des vieilles libertés locales, des villes lombardes, et il faut bien le dire aussi, une certaine hostilité vis-à-vis du Sud.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut absolument établir aucun parallèle entre ce qui se passe en France et ce qui se passe en Italie, puisqu'en France, la France est un vieux pays d'union.
Aucun parallèle, c'est excessif à mon avis.
Vous pouvez pas imaginer en France l'irruption d'une ligue nantaise.
ou d'une ligne bordelaise.
S'il fallait faire des comparaisons, après tout, le mouvement de Philippe de Villiers présente certaines similitudes avec le mouvement d'Umberto Bossi. Enfin, je veux dire, non.
Moi, je crois
bon, non, si vous voulez, comparaison n'est pas raison. Non. Et la France n'est pas l'Italie. Cela dit, dans le monde, l'Italie est quand même le pays le moins différent de la France. Certes, c'est un pays très différent, mais c'est moins différent que d'autres. Même l'Espagne est plus différente.
Je crois qu'on peut dire que les Italiens sont très peu différents des Français, mais en revanche que la structure du pays
Écoutez,
est radicalement différente.
Écoutez, il y a un certain nombre de points communs. Je veux pas, la même chose ne peut pas se produire exactement, mais il y a un certain nombre de points communs. D'une part, comme l'ont montré les élections européennes, il y a maintenant deux courants droitiers, disons. Le Front National d'abord, et ensuite le mouvement de Philippe de Villiers. Deuxièmement, il y a aussi un début d'opération manipulité. Vous savez, l'opération main propre en Italie, a commencé timidement en France. J'espère qu'elle ira très loin.
Pas tant que Pasqua sera, sera ministre de l'Intérieur. Ça, je peux vous le dire. C'est parfaitement clair.
J'en sais rien. Je n'ai pas l'information que vous avez sur ce point.
C'est très simple. Il a bloqué l'initiative du juge Jean-Pierre qui visait à fédérer en quelque sorte la lutte contre la corruption. Sous la bannière d'un organisme unique, ce qui aurait effectivement été tout à fait ravageur.
En ce qui concerne cette lutte nécessaire contre la corruption, bon, évidemment, la France n'est pas tout à fait l'Italie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la mafia au même degré, il y a un peu de mafia, mais pas autant. La corruption est très répandue en France, beaucoup plus qu'on ne le croit généralement, mais quand même moins qu'en Italie. Peut-être parce que les Français ne sont pas plus honnêtes que les Italiens, mais ils sont sans doute moins débrouillards, sans doute. Et nous avons des juges qui sont moins capables, il faut bien le dire, moins capables que les Italiens, moins que les juges italiens, et qui sont surtout moins indépendants, et qui ne disposent pas pour leurs investigations de services aussi indépendants et valeureux que les carabinieri et la brigade fiscale. Alors ça fait beaucoup d'insuffisance. Malgré tout, il y a l'effet de l'exemple, de l'imitation, de la boule de neige, si vous voulez. Alors, d'une part, les gens se disent, si ça se passe en Italie, les juges se disent, si en Italie on peut poursuivre les hommes politiques, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas en France, premièrement. Et deuxièmement, Jean-Pierre a commencé, Van Rijnbeek a continué, puis ensuite dans le Nord, maintenant il y en a un certain nombre qui... Maintenant on se rend compte qu'on a l'appui des médias, l'appui de l'opinion publique, et que finalement, un juge n'est pas... forcément handicapé dans sa carrière s'il fait son métier et son devoir. Alors j'espère qu'il y aura de plus en plus de juges qui feront cela, car ce qu'il faudrait vraiment pour renouveler le système, c'est-à-dire le bousculer un peu, c'est poursuivre les procédures, toutes les procédures qui sont engagées, et peut-être écouter les autres révélations qui pourraient se faire jour.
Je vous dirais que quand je vois qu'au gouvernement français, il y a des gens comme M. Longuet, M. Carignan, M. Léotard, et que je vois qu'à la tête de l'opposition socialiste, il y a M. Emmanuelli, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins optimiste que vous. Parce que je crois que là, réellement, il va y avoir un jeu archi classique du « je te tiens, tu me tiens par la barbichette » et qu'on ne va parler de rien. Et à mon avis, l'opération manipulite, sans que Madame Veil n'ait rien à y voir, c'est un avortement géant en France.
Peut-être, mais je crois que vous êtes trop pessimiste. Vous avez peut-être raison. J'espère que l'avenir vous démentira en ce qui concerne notamment le Parti Socialiste, parce que ce qui est quand même, d'ailleurs je dois dire à ce propos, ce qui est quand même très significatif,
le pire est toujours sûr,
après l'élimination de Rocard, les socialistes se retrouvent autour d'Emmanuelli, qui est donc le trésorier de l'affaire Urba, et d'autre part autour de Monsieur Tapi, qui est l'homme que nous savons, et avec toutes les casseroles que nous savons, et qui on peut dire que c'est un escroc. Enfin, je crois qu'on peut le dire, d'autant plus que dans l'affaire Tapi-Tranchant, le non-lieu qui a été prononcé est un non-lieu scandaleux.
Dans l'affaire Cœur-Assistance, dans l'affaire Tapi-Tranchant, c'est démis.
Mais l'instance publique aurait dû continuer, l'escroquerie, l'abus de confiance était avéré, et par conséquent, le juge n'aurait jamais dû prononcer le non-lieu. Il y a là quand même une décision tout à fait étonnante. Alors, il est tout à fait caractéristique que les socialistes, qui se sont toujours réclamés des valeurs et de la morale, n'est-ce pas, pour abuser les citoyens, maintenant, dans les difficultés et les turbulences qu'ils traversent, ne trouvent rien de mieux que de s'accrocher au basque des deux individus, des deux personnages les plus corrompus dont ils disposent. Dieu sait pourtant s'ils sont nombreux parmi eux.
Ouais. Alors, après ce petit panoramique de la politique internationale, puisqu'on a parlé avec vous de l'Afrique, de la...
C'était Bernard Lugan qui nous y poussait de fil en aiguille.
Vous avez eu tout à fait raison de dire que les exposés du professeur Lugan sont absolument
tout à fait remarquables.
Parce que
je crois qu'il est important, à propos de chaque cas particulier, qu'il s'agit du Rwanda et de l'Afrique du Sud, de revenir aux fondamentaux, comme on dit, c'est-à-dire de se rendre compte que les erreurs qui sont commises dans la politique concrète tiennent à des erreurs qui sont commises sur la conception de qu'on se fait du politique. Le politique, comme dit Julien Freund ou Carl Schmitt, repose le critère du politique, c'est la définition de l'ennemi. C'est la distinction entre l'ami et l'ennemi. Quand on oublie cela, on fait de l'humanitarisme bêlant. Et on peut mettre la main sur le cœur, finalement les conséquences sont tragiques. Hein, c'est pas en ignorant les réalités humaines on protège l'homme contre ses mauvais instincts, c'est l'inverse. Il faut reconnaître la nature humaine qui a des aspects positifs mais des aspects qui le sont beaucoup moins si l'on veut défendre l'homme contre ses mauvais instincts.
Et d'autant qu'en général on bat sa coule sur la poitrine du voisin, c'est beaucoup plus confortable.
Bien sûr, bien sûr. Et on se targue d'avoir de bons sentiments parce qu'on a une conception prétendument optimiste de la nature humaine. Et tout le monde sait bien que depuis Jean-Jacques Rousseau au moins, en passant par Marx et Lénine, eh bien cette conception optimiste de la nature humaine est conduite au pire système totalitaire.
On dit d'ailleurs que l'homme de droite est un pessimiste gay, alors que l'homme de gauche est un imbécile optimiste. Enfin, c'est moi qui le dis.
Je dirais plutôt un pervers faussement optimiste. Parce qu'en réalité,
je ne parle pas spécialement de langue.
Hein. C'est l'optimisme, ils sont utopistes. Alors, ils se présentent comme des optimistes, mais en fait, ils sont des utopistes mus par l'envie et la haine. Vous savez, quand on regarde les descriptions des sociétés communistes qui sont données par les utopistes. Alors, je sais bien que Marx a eu l'habileté de ne pas trop dessiner la société idéale de ses rêves. Mais les sociétés idéales des utopistes, ce sont ou bien des casernes épouvantables, plutôt des termitières, des sociétés où la contrainte pesant sur chaque individu est épouvantable, ou à l'inverse, des bacchanales invraisemblables où les femmes sont mises en commun, pardonnez-moi madame, mais le communisme des femmes est premier dans la pensée utopique avant le communisme des biens, qui n'en est qu'en quelque sorte que le dérivé, et c'est finalement la haine de la famille, au moins autant que la haine de la propriété, qui motive les socialistes.
Vous savez,
je dis ça un peu pour introduire peut-être au programme des activités du Club de l'Horloge, avons programmé justement un forum sur la famille le 24 septembre.
On va en parler tout de suite, mais je voudrais rappeler, à l'appui de ce que vous venez de dire, qu'une des premières dispositions législatives qui a été modifiée par les socialistes, et c'est quand même tout à fait significatif quand ils sont arrivés au pouvoir, ça a été l'âge de la minorité de consentement pour la sexualité. Et ils ont instauré une loi qui permet d'avoir des relations avec un enfant de 14 ans sans qu'il y ait...
Absolument. Ils ont supprimé en particulier l'aggravation, l'incrimination spéciale qui était prévue pour les actes homosexuels commis contre les mineurs.
Il y avait pourtant d'autres priorités et d'autres urgences, très probablement.
Je crois, en ce qui concerne la famille... on parle souvent, et on a raison, de la dénatalité, de la chute de la natalité en France, qui est un très grave phénomène. Mais c'est l'effet, hein, c'est l'effet, c'est-à-dire la conséquence. La cause, c'est la crise de la famille. Et la crise de la famille, elle emporte toutes sortes de conséquences épouvantables, dont la dénatalité, mais aussi l'immoralité, le déclin des traditions et des valeurs, la montée de la criminalité, etc., jusqu'au chômage, qui est dû en partie à la perte de motivation, laquelle, comme Georges Guilder l'a bien montré, est liée à la crise de la famille. C'est-à-dire que quand on est un père de famille et qu'on a des enfants à nourrir, on a tâche de ne pas rester au chômage. Du moins, on est plus motivé pour chercher un emploi et pour se battre dans la vie que si on est un célibataire jouisseur.
Alors, comme vous l'avez
proposé il y a quelques instants, on va parler maintenant du club de l'horloge, donc vous êtes le président. Alors je vous demandais pour les auditeurs qui ne nous auraient pas entendu dans vos précédentes interventions à ce micro,
eh bien,
de définir le club de l'horloge.
Le club de l'horloge est une association qui a été créée il y a 20 ans. Nous allons fêter bientôt le 20e anniversaire puisque nous avons été créés, le club a été créé le 10 juillet 1974. Alors à l'origine, c'était, enfin, je suis un des cofondateurs et j'étais vice-président pendant 10 ans, puis président. À l'origine, nous étions un petit groupe de jeunes anciens élèves de l'ENA, presque tous de la même promotion, et nous voulions réagir contre le Yalta idéologique qui existait à l'époque et qui s'est reformé depuis, d'une autre manière. C'est-à-dire que la droite à l'époque, et vous allez croire que rien n'a changé, mais en fait ça a quand même un peu changé, la droite à l'époque disait aux socialistes, écoutez, vous êtes des gens généreux, nous avons au fond le même projet de société, entre guillemets, que vous. Nous ne vous faisons que deux reproches. D'abord, vous êtes alliés avec des gens vraiment pas fréquentables, les communistes. À l'époque, les communistes avaient quand même 20% des voix. Et puis, vous êtes un peu maladroit en économie, quoi. Vous ne savez pas gérer la société, gérer l'économie, n'est-ce pas ? C'était la réduction de la politique à l'économie et à la gestion. Et nous nous disions non, non, la gauche est mauvaise, non seulement dans les moyens qu'elle se propose pour atteindre ses objectifs, mais également et surtout dans ses objectifs, qui sont en fait de destruction des libertés, de destruction des identités. Alors depuis 20 ans, les choses ont beaucoup changé. On a toujours tendance à être trop pessimiste. Il faut quand même voir aussi que le verre est à moitié plein. L'effondrement du communisme dans le monde est une réalité qu'il ne faut pas sous-estimer. L'évolution des mentalités à l'égard de l'entreprise, du capitalisme, si vous acceptez ce mot, en tout cas de la liberté d'entreprise, des droits de propriété, c'est quand même fait dans le bon sens. Alors maintenant, nous sommes dans une nouvelle configuration idéologique où finalement règne un autre consensus. On reconnaît qu'il faut privatiser un peu l'économie, que la hausse des impôts c'est mauvais, mais on les augmente quand même parce que on tient à l'État-providence. L'État-providence, c'est un peu un blasphème en fait. L'État-providence, c'est d'ailleurs une expression très caractéristique du socialisme, c'est-à-dire que c'est l'État qui est la providence ou le destin des individus au lieu que ce soit Dieu. Je crois qu'il y a dans cette expression couramment utilisée, sans y penser, il y a en fait toutes sortes d'applications politico-métaphysiques très importantes.
C'est certain. Ce langage n'est jamais gratuit.
Le langage est toujours significatif.
Je signale une toute petite parenthèse qu'il y a ce matin dans le Figaro un article extraordinaire qui démontre à quel point le langage est un outil de subversion et à quel point nous sommes devenus, nous sommes maintenant sous le règne de Big Brother. C'est-à-dire dans l'univers de 1984. Je rappelle qu'en 1984. Et je rappelle qu'en 84, quand on est arrivé à cette date, il y a eu des ricanements. On dit, voyez, on nous dit qu'Orwell nous avait annoncé la catastrophe. Et on n'y est pas. On est dans un univers de liberté. 10 ans plus tard, on y est complètement. On est dans l'univers de Big Brother, de la novlangue.
Alors, nous n'en sommes pas encore au point des États-Unis où il y a ce mouvement politiquement correct dans les universités où on n'a pas le droit de dire. Vous savez que normalement, un président, ça se dit un chairman en anglais. Mais man, c'est l'homme.
Oui.
Donc, on a inventé. D'abord, on a eu chairwoman, mais comme c'était discriminatif encore, ou discriminateur, on a dit. Ou discriminatoire, pardon.
Chairbeing.
On a dit chairperson.
Chairperson.
Et maintenant, vous voyez dans les documents les plus officiels, les grandes organisations internationales, chairperson. Ça, c'est absolument grotesque. Alors, je vais prendre un exemple qui me paraît très caractéristique de cette corruption du langage et qui montrera en même temps le travail que nous faisons au Club de l'Horloge. C'est celui du refus de l'exclusion. Tout le monde s'y met, le refus de l'exclusion. Y compris alors Jacques Chirac, qui dans son bouquin récent a dit « Mais je suis contre l'exclusion, l'exclusion est le phénomène moderne, etc. » Alors, c'est complètement ridicule. S'il s'agit de combattre le malheur, les malheureux, la pauvreté, eh bien, employons des mots adaptés, des mots qui conviennent. Le malheur, la pauvreté, le chômage, etc. Et ce concept d'exclusion est absurde. Pourquoi ? Parce qu'il est globalisant et puis en même temps parce qu'il est trop englobant. Avec ce concept d'exclusion, on met dans le même sac, si je puis dire, les infirmes, les malades, et puis qui ne sont pour rien dans leur malheur, Et puis, les drogués, les délinquants qui sont en prison, qui sont des exclus, et ainsi de suite.
Et puis, c'est dans le même sac. Clandestin africain, le banquier israélien.
L'exclu est un passif, c'est-à-dire que, là encore, on retrouve l'analyse du langage, son importance, c'est-à-dire que, quand on dit que quelqu'un est un exclu, au lieu de dire que c'est un malheureux, on préjuge, on dit qu'il subit, il est une victime de la société. C'est encore un moyen de mettre
un irresponsable.
Il n'assume pas, il y a des cas, bien sûr, où les gens ne sont pas responsables, mais il y a d'autres cas où ils sont responsables. Et l'analyse en termes, enfin, l'expression refus d'exclusion, gomme ces différences. Et alors, ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que le refus d'exclusion est une notion complètement utopique et absurde, car il n'y a rien qui puisse fonctionner. Il n'y a aucun ordre social qui puisse fonctionner sans exclusion. Tout le problème, c'est de faire le partage entre l'exclusion légitime et l'exclusion illégitime. Par exemple, la famille dont je parlais un instant. La famille, elle repose sur l'exclusion. Si je me marie avec une femme, c'est que j'exclus les autres femmes, hein, de ma maison et de mon lit. Sinon, je commets une violation du contrat de mariage et de la promesse du mariage. Bien. Donc le mariage, c'est l'exclusion. La propriété, par définition, encore plus clairement, c'est l'exclusion. C'est le droit exclusif sur une chose. Bien. La nation, c'est l'exclusion. Si une nation n'est pas concevable sans frontières, sans une distinction entre l'étranger et le national, c'est dans l'essence même de la nation. Et ainsi de suite, toutes les communautés, le droit, etc. Enfin, on ne peut pas penser un ordre social quelconque, une institution des valeurs sans exclusion.
La plus belle démonstration, à mon sens, qu'on puisse faire, consiste à aller rue Cadet, où vous avez le siège du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France est une des organisations les plus en pointe dans la lutte contre l'exclusion. Chaque fois qu'il y a une pétition contre l'exclusion des malades, des banquiers ou des pauvres,
et ils ont dit
que le Grand Orient de France est en pointe. Et bien, vous allez là-bas, vous rentrez et vous dites « Moi, je voudrais assister à une de vos réunions ». Et ils vont vous foutre à la porte. Et vous direz « Mais enfin, c'est une forme d'exclusion ».
Et si vous êtes franc-maçon, ce qu'à Dieu ne plaise, et que vous déclarez que vous votez Jean-Marie Le Pen, vous serez exclu proprement. Le Parti Socialiste, et d'ailleurs le RPR de M. Chirac, qui est contre l'exclusion, n'hésite pas à exclure ses militants ou ses élus qui passent des alliances locales avec le Front National, par exemple. Donc on exclut le Front National au nom du refus d'exclusion. On dit le Front National est contre l'immigration, donc il est pour l'exclusion, donc nous allons l'exclure. C'est d'une logique évidemment parfaite. Mais c'est typique de la gauche, si vous voulez. Le thème du refus d'exclusion, qui est un thème non philosophique, qui est un thème absurde, enfin qui dénote une indigence de la pensée, mais vraiment totale, est un thème qui est très caractéristique de la gauche. Car si je finis en un mot sur ce développement, je crois que ce qui caractérise la gauche, c'est qu'elle n'a pas de valeur, ou plutôt qu'elle représente le contraire de toutes les valeurs. Car l'utopie, c'est le contraire des valeurs. Les valeurs supposent des traditions, des préjugés légitimes, des données que l'on accepte avec respect, quand on s'incline devant la tradition, devant la révélation, devant quelque chose qui est supérieur à soi-même. Si on se dit, moi, avec ma raison pure, je suis capable de, comme Descartes, en partant du cogito, je suis capable de tout reconstruire, de me redéfinir mon système du monde, en oubliant le passé, en oubliant ce que mes parents m'ont dit, parce que je suis un grand philosophe, alors effectivement, je n'ai plus besoin de valeur. Je démontre tout ce que je vais faire, tout ce que je dois faire. Et ça, c'est la gauche, c'est le rationalisme poussé à l'extrême.
Alors, Henri Descartes, malheureusement, on est tenu par le temps, et on en arrive maintenant à une autre des raisons pour lesquelles vous étiez venu ce soir, c'est la remise du prix Lysenko. Alors, je dois dire que c'est un des aspects de l'activité du Club de l'Horloge qui me plaît le plus, parce que vous maniez, grâce à la création de ce prix Lysenko, une arme qui est une arme terrible et ravageuse, qui est l'humour.
L'ironie, oui.
L'ironie est là une ironie terrible, puisque Lysenko, c'est l'incarnation, c'est le prototype, c'est l'archétype du faux savant porté au pinacle par une fausse pensée politique, puisque Lysenko
Il faut peut-être rappeler qui était Lysenko. Alors, Trofim Denisovitch Lysenko, qui est mort en 1976, était un agronome ukrainien. Et il fut le grand favori d'abord de Staline et ensuite de Khrouchtchev. Et en fait, sa chute en tant que grand maître de la biologie soviétique n'est intervenue qu'en 64, si je ne m'abuse, au moment de la chute de Khrouchtchev. Khrouchtchev l'a protégé jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'il l'a protégé? Parce que Lysenko faisait une constatation, une observation très simple. Il disait, écoutez, messieurs, la génétique du moine Mendel. Ça, c'était un argument contre la génétique, c'est qu'elle avait été trouvée par un moine, mon père.
Henri de Lesquin s'adresse à Monsieur l'abbé Bayot, alors, qui vient de nous rejoindre.
Alors, comme la génétique avait été trouvée par le moine Mendel, donc c'était forcément une idéologie monastique, si je puis dire, et surtout une idéologie bourgeoise, etc. Bon. Et il disait, la génétique de Monsieur Mendel, du moine Mendel, est incompatible avec le marxisme. Pourquoi ? Parce que le marxisme promet la société future, et la société future du marxisme ne peut fonctionner qu'avec des hommes différents de ceux que nous connaissons. Mais les hommes que nous connaissons sont des hommes aliénés. Et dans la société future, ce sera un homme nouveau qui apparaîtra, quand on aura désaliéné l'homme, on aura humanisé l'homme, en fait, l'homme futur n'aura aucun rapport, il sera bon. Il sera revenu à sa nature, qui est d'être parfaitement bon, et il n'aura plus de motivation méchante à l'égard de son prochain. Et cette transformation de l'homme que devait faire le régime communiste, elle n'était pas possible si l'on acceptait les gènes, c'est-à-dire l'hérédité. Si on accepte l'idée que la personnalité des hommes est conditionnée au moins en partie par leur hérédité, qu'ils tiennent de leurs parents, à ce moment-là, on ne peut pas espérer, sauf à attendre un million d'années, créer l'homme nouveau que l'utopie communiste présuppose. Donc, contradiction. Alors, il y a d'autres aspects un peu plus philosophiques, c'est le fait que l'invariance des gènes est contraire à la dialectique de M. Engels. Bon, enfin, passons. Donc, il avait parfaitement raison de dire la génétique, c'est incompatible avec le marxisme. Il faut choisir. Alors, évidemment, les gens raisonnables disaient, c'est vrai, mais puisque la génétique est incompatible avec le marxisme, je choisis la science contre la superstition marxiste. Eh bien, évidemment, Staline ni Khrouchtchev ne pouvaient accepter cela. D'autant plus que Lysenko, qui était agronome, avait promis à Khrouchtchev de faire sortir des moissons fabuleuses du Kazakhstan, puisque comme, n'est-ce pas, l'hérédité n'existait pas, elle n'existait ni pour les hommes, ni pour les plantes, donc on pouvait créer du blé prodigieux, etc., pour les céréales, et faire des moissons non seulement
dans la neige,
n'importe où, avec
un peu
d'habileté marxiste appliquée, on pouvait faire des choses extraordinaires.
Comme d'ailleurs, quelques années plus tard, on a opéré des gens avec la pensée de Mao Tse-Tung.
Absolument. Alors la crise de l'agriculture soviétique, si vous voulez, est à mettre en parallèle avec la crise de la biologie soviétique, qui a été sinistrée par, qui a été ravagée par Lysenko, parce que tous ceux qui défendaient la génétique dite bourgeoise étaient envoyés au goulag, comme Vavilov, qui était le grand savant botaniste. Je salue justement Marie-Josée de Bravura, puisque Marie-Josée de Bravura, qui est un grand sculpteur, a produit une œuvre remarquable qui est justement la tête de Lysenko dont nous parlons. Et pour ceux qui viendront, pour ceux des auditeurs de Radio Courtoisie qui nous feront l'honneur de venir le mercredi 29 juin 1994, c'est-à-dire mercredi prochain, oui, dans une semaine, 19h, assister au prix Lysenko dans les salons de l'Étoile, dans les salons de l'Étoile, 38 avenue de Friedland. Ils pourront voir la tête de Lysenko. Alors, je laisserai à Marie-Josée de Bravura le soin de...
On va lui donner deux minutes pour parler de ça, parce que c'est assez... Cette tête...
Elle est merveilleuse.
Un objet extraordinaire.
Elle exprime beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, le fond du cerveau de Lysenko. Alors bon, si vous voulez, j'essaye d'abréger la présentation du prix Lysenko pour dire que... Lysenko est mort, plus personne ne croit au lysenkisme stricto sensu, c'est-à-dire à la négation stricto sensu de la biologie, de la génétique traditionnelle, classique, mais en fait, il y a beaucoup le néo-lysenkisme parasite une quantité de sciences. Alors nous avons donné le prix Lysenko à un biologiste, Albert Jacquard, qui explique que l'hérédité n'existe pas, ce qui est quand même assez gros pour un biologiste, avec des formules très voisines de celles de Lysenko. Son argument est un peu différent, mais ça revient même. Au professeur Jean-Noël Jeannet, historien, à M. Hervé Lebras, démographe, alors là, lui, il est très fort, M. Hervé Lebras, il explique d'une part qu'il n'y a pas de dénatalité en France, que tout va bien, Madame la Marquise, et deuxièmement, que les immigrés sont de moins en moins nombreux, et qu'ils seront de moins en moins nombreux. Donc, il méritait amplement... Et que d'ailleurs, ceux qui disent le contraire sont des racistes bourgeois, etc.
Mais au fond, il a raison, parce qu'un fils d'immigré n'est plus un immigré.
Voilà. Ensuite, M. Robert Badinter...
Encore une fois, c'est la négation de la génétique.
Là, je suis obligé de faire une parenthèse sur M. Robert Badinter, parce que M. Robert Badinter n'est pas, à proprement parler, un scientifique, mais c'est quand même un peu un scientifique. C'est-à-dire qu'il a connu quelques écrits théoriques sur la criminologie. C'est en tant que en fait, si vous voulez, il aurait fallu donner le prix Lysenko en ce qui concerne la criminologie à Marc Ancel. Mais Marc Ancel, fondateur de l'école de défense sociale nouvelle, dont nous sommes tous les victimes, puisque c'est pour cela que l'insécurité a autant augmenté. C'est l'application des méthodes de monsieur, des préceptes de monsieur Marc Ancel. Mais Marc Ancel, lorsque nous avons donné le prix Lysenko à un criminologue, d'une part, il a été mort, ça ne se fait pas de donner un prix de ce genre à une personne défunte, et d'autre part, il est quand même beaucoup moins connu que M. Robert Badinter. M. Robert Badinter a l'avantage de s'être défini lui-même comme fils spirituel de Marc Ancel, et d'avoir systématiquement, contre vents et marées, contre le démenti des faits, un peu comme Lysenko en biologie et en agronomie, avoir mis en œuvre les idées de la défense sociale nouvelle, avec les conséquences que nous savons, c'est-à-dire qu'il a doublé la criminalité, en 5 ans, ce qui est quand même une belle performance, et il mériterait peut-être de figurer dans le guide Guinness des records, outre son prix Lysenko. Et en 1993, c'est-à-dire l'année dernière, nous avons donné le prix Lysenko à deux auteurs que vous ne connaissez pas, Monsieur Carlo, sans doute, enfin je ne pourrais pas m'estimer, Monsieur Carlo Gainsbourg et Jean-Paul Demoule, qui ont surtout le mérite, entre guillemets,
oui, vous avez gagné.
D'avoir expliqué, l'un est un historien italien, l'autre un archéologue, français qui ont expliqué que les études indo-européennes ne valaient rien en général et qu'en particulier Georges Dumézil, le grand savant français Georges Dumézil, dont la France peut s'enorgueillir, était un charlatan parce qu'il était nazi. Et que, n'est-ce pas, toutes les études indo-européennes, par définition, étaient... Et soutenir que les indo-européens existaient ou avaient existé, c'était en soi une thèse nazie. Donc,
d'ailleurs, voilà. Il faut ajouter que les V1 et les V2 n'ont jamais bombardé Londres, puisque c'était des objets fabriqués par des savants.
Donc ça ne pouvait pas marcher.
Absolument. Et donc les Anglais le racontent.
Alors, cette année, nous donnons le prix Lysenko à un économiste. Vous voyez, à chaque fois, nous changeons de discipline, hein, pour montrer que l'Lysenkisme est vraiment un mal pernicieux qui atteint pas toutes les disciplines, peut-être pas encore la physique nucléaire, mais bon, on sait-on jamais. En tout cas, l'histoire, la biologie, la démographie, la criminologie, les études indo-européennes, et maintenant, l'économie. Alors, cette année, le prix Lysenko est remis au professeur John Kenneth Galbraith, que vous connaissez sans doute, qui est un économiste américain, qui a été même président de l'Association des économistes américains, pour sa défense du salaire minimum et des politiques socialistes de lutte contre le chômage. Monsieur Galbraith, il a tous les critères pour être un lauréat du prix Lysenko, c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de soutenir des théories fausses, absurdes et nocives, il les défend avec des arguments, avec des attaques ad hominem, c'est-à-dire en pratiquant le terrorisme intellectuel.
C'est un pur stalinien.
Il ne se contente pas de dire, ceux qui veulent remettre en cause le salaire minimum ont tort, parce que moi je soutiens que ça diminuerait la demande, etc., et comme je suis keynésien, je pense que... Non, il dit, en fait, leur seul but, leur vrai but... C'est un peu comme Marx. Hein. Leur vrai but, d'ailleurs, il aime beaucoup Marx. Leur vrai but, en fait, c'est de défendre les intérêts des classes possédantes. Voilà ce qui les motive. De la même manière que Lysenko disait...
Tuer l'ouvrier.
Les généticiens, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Ils cherchent à justifier les inégalités. Hein, ou ils cherchent à justifier le racisme, et ainsi de suite. Donc, c'est l'argument par les intentions, le procès d'intention, si vous voulez... qui est consubstantiel du lysenkisme. Et Galbraith est un très bon candidat, je pense. Du moins, c'est ce que le jury... Alors, nous avons un jury secret, hein, parce que les gens sont courageux mais pas téméraires. Donc, nous avons un jury de scientifiques sur l'ensemble des disciplines. C'est le club de l'horloge, finalement, qui prend la décision après avoir consulté le jury. Et qui en prend la responsabilité publique, vis-à-vis notamment du lauréat qui n'est pas toujours content d'être désigné. Mais bien sûr, nous nous entourons de toutes les cautions scientifiques nécessaires, et cette année comme les autres. Donc, alors cette année, bon, la conférence que nous ferons le 29 juin sur cette affaire sera un peu différente de celle de l'année précédente. D'abord parce que on va commencer par donner la parole à Marie-Josée de Bravura, qui expliquera la quintessence du lysenkisme à travers sa sculpture. Et ensuite, nous écouterons Gérard Bramoulet, qui est un économiste remarquable, qui fera une critique de fond et humoristique en même temps de Galbraith.
Donc, si on veut passer une soirée à la fois intelligente et distrayante,
on pense qu'on peut s'inscrire.
On peut donc s'inscrire au Club de l'Horloge. Alors,
4 rue de
jusqu'au
Stockholm.
26 juin, écrivez 4 rue de Stockholm, 75008 Paris. Le prix de la réunion est de le prix d'entrée de 35 francs par personne et 20 francs pour les étudiants.
Donc vraiment, on peut dire que ça ne vaut pas la peine de s'en priver.
Et gratuit pour le lauréat.
C'est à
19h. Ouais. Et on peut téléphoner aussi au club de l'horloge au 42 94 14 14.
Merci. Merci Henri de l'Escar. Alors, je me tourne maintenant vers le sculpteur.
Ah, j'ai eu peur. La quoi?
La femme sculpteur.
Oui, ça va.
Marie-Josée, vous avez donc fixé dans la résine...
Non, dans de la terre cuite.
Dans de la terre cuite, hein, ben ouais, je me suis trompé alors. Les traits de Trofim Lysenko, sympathique Trofim. Décrivez-nous rapidement ce buste, ou plutôt cette tête.
Eh bien, pour les auditeurs qui ne l'ont pas encore vu, simplement en regardant mon Trofim, quand Henri Lesquin m'a demandé de le faire, il avait peur qu'en le présentant au Club de l'Horloge, on pense que nous avions une grande admiration pour Trofim Lysenko. Il a été tout à fait rassuré dès qu'il a vu le buste, parce qu'on voit à quel point le fait de mentir et d'être voleur pouvait donner au regard quelque chose d'extrêmement réjouissant dans la méchanceté, la maigreur, l'agressivité, etc. Il a son deuxième œil qui a quelque chose dedans, mais lui, il s'est pas mis le doigt dans l'œil, il s'est mis la faucille dans l'œil. Et au dos, il a le marteau qui lui a cassé les pattes. Et il a ce sourire sardonique, vous voyez, avec les lèvres crispées qui sont comme un trait de tous les gens qui sont bons, généreux et tendres pour les autres, n'est-ce pas? Et puis, comme toute sa vie, il essaye aussi de faire pousser du blé au dos. Il fait pousser un blé qui se termine en faucille et en marteau, parce que chez lui, c'est vraiment de l'obsession. Et je comprends pas qu'il n'y ait pas eu encore quelques psychiatres pour s'intéresser au cas Lysenko, parce que chez lui, la faucille et le marteau, c'était vraiment une obsession totale.
Alors, ce qu'il faut dire,
ça, c'est le petit point qui est en train de germer parce qu'il refusait les petits pois, les lois de Mendel.
Ce qu'il faut dire, c'est que les portraits de Marie-Josée de Bravoura ont un triple aspect. Il y a une partie de la tête qui est une sculpture, tout ce qui est plus traditionnel.
Absolument, académique.
Très, très ressemblance, très académique. Une autre partie qui est une caricature qui exprime quelque chose. Et puis, quand on retourne la tête, on s'aperçoit que l'arrière est creux, en quelque sorte. On voit la tête en creux. Et à la place du cerveau, Marie-Josée place des symboles qui expriment la sympathie ou les autres sentiments qu'elle éprouve à l'égard du portraituré et qui expriment aussi ce qu'elle ressent de son âme. Et alors, c'est très étonnant de voir la tête de Lysenko, je l'ai vue. Quand on regarde le profil droit, on voit une canaille. Quand on regarde le profil gauche, on voit une infâme canaille. Et quand on regarde par derrière, on comprend que c'était en plus un imbécile tonitruant. Et c'est quand même assez rassurant de voir que le stalinien Lysenko est conforme à l'image, je dirais presque ethnique, du stalinien moyen. Voilà. Alors donc, si vous voulez voir cette très intéressante tête, j'espère que vous ne l'offrirez pas à Galbraith, parce que vraiment, il ne mérite pas ça.
Je dirais que Galbraith n'a qu'un seul tort par rapport à d'autres candidats, c'est qu'il est plutôt plus sympathique que les autres, parce qu'il a quand même le sens de l'humour, il a de l'esprit. Et bien que ce soit un infâme lysenkiste malgré tout, il est plus drôle. Lysenko était vraiment très dépourvu d'esprit.
Mercredi 29 juin 1994 à 19h dans les salons de l'Étoile, 38 avenue de Friedland. C'est comme ça qu'on dit, Philippe, c'est Friedland. Parce que Friedland.
Bon, Friedland.
Je m'en doutais. 38 avenue de Friedland, Paris 8e. Si vous voulez téléphoner pour réserver, c'est le 42 94 14 14. Et si vous voulez écrire, vous écrivez 4 rue de Stockholm. 75
0
pas comme ça.
Non, c'est pas comme ça, ouais. Et venez nombreux, surtout.
Oui, je crois que
José et moi, nous vous attendons de pied ferme.
Eh oui, parce qu'après, on va découvrir d'autres petits lycéens.
Et nous boirons 20 verres ensemble après la réunion.
Merci, Henri de Lesquin.
Merci.
Merci, Serge de Bekech. On a des questions, mais bon, elles posent sur des sujets qu'on a déjà évoqués ensemble, les liens idéologiques philosophique du Club de l'Horloge avec d'autres organisations. Si vous voulez, on vous reviendrez puis on parlera de tout
ça. Nous sommes indépendants.
Oui, je crois que c'est assez clair. D'ailleurs, des gens comme vous, finalement, on n'a pas tellement envie qu'ils ne soient pas indépendants.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Il n'a pas une pensée orthodromique. Alors, on croit l'avoir dans son parti, puis on s'aperçoit que non, pas du tout. J'imagine que vous avez dû faire beaucoup de peine par le caractère, non conformiste de vos propos.
J'essaye.
À commencer par l'ENA, d'ailleurs, où vous deviez être une espèce de...
Ah, c'est terrible, l'ENA. Hein. Je n'ai pas du tout aimé cette école. Non, d'ailleurs, je pense que le mieux serait de la supprimer.
Vous en êtes très bien sorti, en tout cas.
J'ai le double privilège d'avoir fait Polytechnique et puis l'ENA, et je dois dire que j'ai trouvé beaucoup plus sympathique l'école Polytechnique qui a une meilleure tradition. Qui, d'ailleurs, n'a pas été fondée par la Révolution, comme on le dit à tort, qui remonte en réalité à l'école de Mézières, qui a été créée sous Louis XV en 1745.
Merci de ce bref aperçu historique. À bientôt, Henri Glisson.
Ce qui est agréable chez lui, c'est qu'il connaît.
Oui, en général, il sait de quoi il parle. Monsieur l'abbé Bayot, bonsoir. Monsieur Triomphe, bonsoir. Alors, il nous reste quelques minutes pour... qu'est-ce qui se passe?
On va avoir le temps,
mais bien sûr. Rapprochez-vous. On a le temps. On va pas avoir le temps de développer très longuement notre affaire, mais l'essentiel, c'est de dire ce que vous faites, pourquoi vous le faites et comment on peut vous aider à le faire. Alors, qui prend la parole le premier?
C'est Dante Armatoja. Non,
c'est... Ben non, apparemment, non. Toja ne veut pas qu'on
s'exprime. Toja ne veut pas s'exprimer. Que souhaitez-vous que je vous dise?
Bien, la raison pour laquelle vous êtes ici.
D'accord, alors, vous me laissez tout faire, vous ne me posez pas de questions.
Vous animez une association.
D'accord.
Qui s'appelle?
Qui s'appelle L'Encre, comme une encre de marine. Ce qui signifie, pour les profanes, qui sont les éditeurs de Radio Courtoisie, qui ne sont pas des gens de Seine-Saint-Denis, j'imagine forcément, encre signifie association noiséenne catholique pour la continuité du rite dans l'église. C'est très long, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes une association créée en 1987 de paroissiens de la ville de Noisy, de Legrand, dans l'Est parisien, qui ne se satisfaisaient plus de ce qu'ils voyaient dans leur paroisse, c'est-à-dire un rite qui s'éloignait de plus en plus du rite catholique, et à cette époque, très humblement, d'une manière très simple, ils ont demandé aux autorités ecclésiastiques s'il n'y avait pas moyen, étant donné qu'on avait parlé d'un adulte autorisant la messe de Saint-Pie-V, s'il n'y avait pas moyen, ma foi, pour... satisfaire, enfin pour tranquilliser ses sensibilités traditionnelles, de revenir à quelque chose de plus décent, la circonstance, le rite de toujours. Nous n'avons pas été entendus, et l'association, enfin ses paroissiens, se sont regroupés au sein d'une association qui, ma foi, je dirais, s'est un petit peu raidie de la défense du rite. Elle est passée tout naturellement à la défense de la doctrine, puisqu'aussi bien l'ex orandi, l'ex credendi, un nouveau rite, nouvelle croyance, nouvelle foi. Et bien, ma foi, l'encre a pris conscience qu'en battant en brèche le rite millénaire de l'Église, c'était sa foi qui était également mise en cause. Donc, l'encre, association noisienne catholique pour la continuité du rite dans l'Église, ce qui est finalement très modeste, très peu ambitieux, est devenue une association plus stricte dans l'expression de sa foi.
Alors, mais ça pourrait n'être, ça ne concerne donc qu'une association traditionnaliste parmi nous.
Voilà, voilà. Mais, donc,
mon aspect qui est totalement original.
C'était un petit peu long, je vous prie de m'excuser. Ce petit groupe de paroissiens s'est créé en association et très vite s'est rendu compte que le rythme devait s'exprimer également dans un endroit digne de sa beauté, enfin digne de sa grandeur. Et très vite est né le projet d'une construction d'une chapelle, avons-nous dit d'abord, avec un slogan qui a eu un certain succès, une chapelle de pierre dans une gangue de béton. Pourquoi une chapelle de pierre? Parce que nous sommes attachés à la pierre, à la beauté de notre religion qui s'exprime dans des monuments, uniquement que nous connaissons, de notre civilisation. Et dans une gangue de béton, parce que c'était à Noisy-le-Grand, l'une des communes de Marne-la-Vallée, cette mer de béton qui ne fait que grandir et que tout envahir. Donc nous avons envisagé tout de suite de créer une chapelle en pierre dans cet océan de béton, dans cette gangue de béton, si vous voulez. Voilà, ce slogan a fait florès, et très vite des ailes nous sont poussées. Nous avons constitué un comité de soutien, enfin un comité de soutien s'est constitué avec des noms prestigieux. Permettez-moi d'en citer quelques-uns, mais tout à fait au hasard. Hein. Serge de Becquet, André Figueras, Jean Ferré, Claude Giraud, quelques autres, peut-être pas moindres, mais enfin, que je citerai après, Pierre Bernard, maire de Montferrin, excusez-moi.
Qui mériterait principe... bien de s'appeler Pierre de Montfermeil, d'ailleurs.
Oui, c'est un joli nom. Oui. Le prince X de Bourbon-Parme, l'acteur Jacques Dufilho, etc. Bah, tout ça, donc, nous a...
Et on vous a vu, Monsieur Triomphe, faire le siège des sorties d'église.
Voilà, alors tout ça nous a encouragé.
Avec votre petite maquette.
De ce comité, les premiers chèques qui sont tombés, pardonnez-moi d'aborder ces questions d'argent tout de suite, on s'est dit que notre projet était viable. Et puis, ben, nous avons accéléré le mouvement. Effectivement, nous nous sommes rencontrés sur quelques parvis d'église où, de dimanche en dimanche, nous allons installer notre étal. Oui, vous me faites signe. Installer notre étal pour expliquer notre projet et recueillir quelques fonds. Voilà.
Alors, on va maintenant dire où vous en êtes. On fait la
pause technique.
Oui, enfin la pause technique. Et puis ensuite, je donne la parole à Monsieur l'abbé Bayeux pour nous expliquer ce qui se passe maintenant.
Autrement dit, j'étais un petit peu long. Je vous prie de m'en excuser.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Dans le cadre des archives de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch du 22 juin 1994, rediffusé le dimanche 1er juillet dans la nuit de 2h à 5h. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Attention, exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission, mais vos lettres seront toujours les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, nous n'entendrons pas Marc Dem exceptionnellement parce que nous sommes tellement bousculés par le temps que je lui ai demandé de reporter son appel à la semaine prochaine. Mais au fond, ça vous permettra de prendre connaissance de sa lettre confidentielle d'information religieuse sans qu'elle ait été déflorée. Et si vous voulez la recevoir, vous écrivez boîte postale 52 78 101 Saint-Germain-en-Laye-Sedex et elle vous sera adressée par retour. Envoyez, s'il vous plaît, quelques timbres pour permettre à Monsieur Marc Dem de nourrir sa nombreuse famille charmante au demeurant. Monsieur l'abbé...
Et affamé,
bien sûr. D'autant qu'il a maintenant des petits-enfants, alors vous savez. Monsieur l'abbé Bayeux, donc vous êtes en quelque sorte l'âme de cette encre au sens métallique du terme. Je crois que dans votre cas, c'est pas trop mal trouvé comme formule.
J'ai beaucoup dire d'une âme, je suis surtout la langue. C'est moi qui... En effet, dessert cette paroisse d'une manière tout à fait provisoire, puisqu'on n'a pas encore trouvé mieux, mais que ça ne saurait tarder. Et on trouvera mieux lorsque le siège de Pierre sera établi. Et je ne suis là ce soir, finalement, que pour dire où l'on en est. En effet, nous avons, pendant des années et des années, célébré la Sainte Messe dans une salle commune et communale, qui sert à 1000 emplois, et même le dimanche matin à la célébration de la messe, et c'est pour cela que c'est gênant et qu'on voudrait avoir une église consacrée. Pour ça, il faut deux choses, un terrain, une église. La démarche normale consiste à acheter d'abord le terrain et ensuite à construire dessus l'église, mais quand l'esprit souffle, les choses se renversent et on a trouvé, on ne voulait pas laisser passer l'occasion, une église consacrée qui attendait preneur. Entre la dislocation de cette église, qui aurait servi pour l'autel à installer un barbecue, pour une ogive à décorer un édicule de jardin, donc à être dépecée en morceaux vénaux, nous avons choisi de la prendre dans son entier, de manière à en faire le sanctuaire de l'église à venir. Elle a été, autrefois, je ne rappelle pas son histoire, j'ai pas le temps, utilisé dans un village qui était consacré à Saint-Martin. Or, il se trouve qu'à Noisy, on est placé sous le patronage des moines de Saint-Martin qui y ont vécu autrefois. Il y a là une sorte de circuit de boucle qui peut s'achever favorablement. Alors, on a acheté cette église, 120 ou 130 tonnes de pierre, qui sont portées par quatre Hercules, qui sont les quatre membres du bureau de l'ancre, et qui tiennent ce plateau avec 120 tonnes de pierre au-dessus du vide, parce qu'il y a bien la terre en dessous, mais si on laisse tomber, ou si on n'y a pas d'amortisseur entre l'église et le terrain, ça va se casser, l'église va se briser, et le rêve aussi. Il faut donc qu'on achète le terrain qui est en dessous. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'on fait appel à vous.
Alors, l'église, vous l'avez achetée, donc vous avez les pierres démontées, qui n'attendent que d'être montées.
C'est numéroté comme ces églises de vrais gothiques que les Américains achètent pour faire ancien au Texas.
Si je peux me permettre de vous interrompre une seconde, monsieur l'abbé Bayot, nous avons déjà fait la démarche d'ailleurs d'aller voir la mairie de Noisy-le-Grand pour lui dire, pour lui tenir ce langage. D'ici quelque temps, un convoi de 7 camions de 30 tonnes chacun s'apprête à arriver sur Noisy avec une église. Qu'en faisons-nous, monsieur le maire? Est-ce qu'on la dépose sur le parvis de la place de la mairie, sur le parvis de la mairie? Voilà, donc un convoi de 7 camions de 30 tonnes s'apprête à arriver sur Noisy-le-Grand.
Ça va leur faire de la distraction.
Donc de pierres numérotées, comme vous le disiez, qui comportent de pierres, de porches, de colonnes, de CHAIRE, de dalles, de tuiles, de statues, tout cela est prêt à arriver à Noisy-le-Grand. Alors donc, où la mairie que nous avons été voir nous offre ce terrain, je n'y crois pas beaucoup, mais enfin on tente la démarche, où les auditeurs de Radio Courtoisie qui veulent bien s'intéresser à ce projet, qui me semble être tout de même unique, au moins en Ile-de-France, nous aident, nous donnent les quelques... Combien faut-il? Il nous faut quelques millions de centimes, je dirais, je chiffrerai pas exactement. Nous avons constitué au fil des années que vous venez d'évoquer, au cours desquelles vous m'avez rencontré sur les parvis, etc. Nous avons constitué un petit trésor de guerre, mais qui est encore un peu insuffisant pour acquérir ce terrain que nous acquérons si la municipalité de Noisy-le-Grand ne nous l'offre pas. Voilà. Alors donc, à bon entendeur, salut que les auditeurs de Radio Courtoisie qui s'intéressent à ce projet veulent bien nous aider un petit peu.
Monsieur l'abbé Bayot, est-ce que vous avez un argument qui devrait conduire les auditeurs à adhérer à votre projet?
L'intérêt, il est double. C'est d'abord l'église elle-même. Ça n'est pas une bâtisse quelconque qu'on va construire avec des matériaux préfabriqués et ordinaires. C'est une église qui a déjà été consacrée, qui a une vie paroissiale, où on a prié, on a baptisé, on a enterré. C'est une église qui a été vivante. L'histoire a fait qu'elle a été non pas détruite ni vendue, mais démontée pour resservir. C'est là l'occasion de reprendre une tradition qui est incluse dans les murs même de l'église. La deuxième chose, c'est que c'est à Marne-la-Vallée, c'est-à-dire un désert où la population grouille, si j'ose m'exprimer ainsi, un désert spirituel où la population grouille à la recherche de toutes sortes de pseudo-religions qui correspondent au polymorphisme et au polyglottisme de la population. Il y a encore quelques Gallus rusticus qui se promènent dans les rues, mais la plupart sont au musée archéo-ethnologique empaillé. On voudrait rassembler ce qui reste et leur redonner la religion de leur père, dans une situation, encore une fois, qui est aberrante. Aux portes de Paris, on a, entre Euro Disneyland et le boulevard périphérique, on a, dans ce béton, un grouillement où la kippa côtoie la babouche, si j'ose l'exprimer ainsi, et on voudrait aussi qu'il y ait la croix et la vérité proclamée. Les curés locaux sont peu accueillants, nous l'a dit tout à l'heure.
Allons bon.
Ils ont troqué...
J'en demeure étonné.
Ils sont inspirés de haut pour ça. Ils ont troqué le costume traditionnel pour le jean, et on danse le tango à l'intérieur de leurs églises. Le tango, je ne sais pas si c'est une constance aggravante, mais enfin, il est argentin.
Bien, monsieur l'abbé Bayot, merci de vous être dérangé pour aussi peu de temps, mais la qualité l'emporte sur la durée. L'adresse, Monsieur Triomphe.
L'adresse de l'association, donc l'Ancre, 11 13 Mile Victor Jara, 93 160 Noisy-le-Grand.
Ah oui, vous faites partie de ces gens qui ont des adresses simples.
Oui, en effet, oui. 11, ça suffira. Mile Victor Jara, un mile comme dans le Nil. Victor Jara, J-A-2-R-A, 93 160 Noisy-le-Grand. Dois-je donner un numéro de téléphone?
Oui, bien sûr.
Je le donne, mais il est à utiliser le soir après 20h seulement, c'est le mien. 45 92 85 74.
Merci, voilà, Monsieur Triomphe. Alors, je rappelle l'adresse de l'Ancre. C'est A-N comme une encre ancrée dans la tradition. Le numéro, vous nous avez dit, du mail.
Mail Victor Jara, c'est le numéro 11.
11. 11 mail Victor Jara, 93 160 Noisy-le-Grand. Le téléphone 45 92 85 74, le soir seulement.
Encore un mot, je peux préciser que nous nous promenons donc tous les dimanches d'un parvis à l'autre et que nous serons ce dimanche à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, donc tout près de la mutualité où je crois que Radio Courtoisie tient congrès.
Exactement.
Donc, les auditeurs de Radio Courtoisie qui vont à cette fête de Radio Courtoisie nous disent un petit bonjour en passant, nous serons là sur le parvis entre Saint-Nicolas et mutualité.
Très bien.
Monsieur l'abbé,
en tant que responsable spirituel de cette église, je tiens à préciser ceci. Oui, dimanche prochain, la vente se fera sur le portail, au portail de Saint-Nicolas. Mais nous ne sommes pas une église nicolaïte qui dépend uniquement de la fraternité. Chez nous, il y a des gens qui sont rattachés à la fraternité, bien sûr, mais il y en a aussi qui sont rattachés à l'abbé de Nantes, qui sont rattachés à Jeune Chrétienté, à Renaissance Catholique, enfin tous ces mouvements qui sont finalement frères, et nous évitons soigneusement, pour que tout le monde se sente chez lui quand il est chez nous, toute querelle de clocher et toute querelle politique.
C'est pour vraiment... ça que vous êtes aussi bien chez vous ici.
C'est pour ça que nous sommes catholiques et pas assisiens. Voilà.
Tout ça est vrai, monsieur l'abbé, mais permettez-moi de préciser que nous sommes très vigilants sur la foi, sur la doctrine.
Et sur le rite, puisque le rite. Vous êtes, c'est la définition même de votre association. Oui. Merci monsieur l'abbé, merci monsieur Triomphe, à bientôt, et donc à dimanche, sur le parvis de Saint-Nicolas, juste devant la mutualité, André Figueras, bonsoir.
Bonsoir, Serge.
Alors on va pas beaucoup sortir du sujet.
Non.
Si j'ose ainsi m'exprimer, puisque vous venez de publier, un livre, enfin deux ouvrages, un qui a maintenant quelques mois, et un qui vient de sortir, et que vous présenterez d'ailleurs à la mutualité le dimanche prochain. Il s'agit d'une part de mes opinions indépendantes sur Pétain, Salan et Le Pen et quelques autres, Argot, Offan, Bidot, Boualam, Isorni, Monsaber, Trinquier.
Bon, il n'y a pas besoin d'explication, c'est clair et net par soi-même, c'est le titre suffit.
Ce sont des gens que vous avez rencontrés. Avec lesquels vous avez eu des conversations, avec lesquels
et de l'amitié,
et des aventures, et vous nous racontez les souvenirs que ces gens-là vous ont laissés.
Non, évidemment pas Pétain, je ne l'ai pas connu, ça va de soi. Mais les autres, oui.
Mais c'est sur Pétain, vous racontez des choses qui n'ont jamais été dites.
Peut-être bien.
Et d'ailleurs, ce matin même, dans Présent, vous avez raconté une chose que j'ai trouvée extraordinaire. C'est quelque chose que jamais personne n'avait dit avant vous, et je vais lire, si vous permettez, ça ira plus vite, que vous demandez de le répéter.
Bon auteur.
Alors, c'est à la une de Présent de ce matin, de ce matin.
Ce soir,
plus exactement, qui sera dans les boîtes aux lettres demain matin, et qui est dans les kiosques dès ce soir. Oradour. Concernant le drame d'Oradour, une information me semble avoir manqué partout. J'en dois la teneur à Henri Issou, qui fut témoin de la scène. Le lendemain même du massacre, le préfet de région, M. Freundwald, vit arriver dans son bureau le général Gleininger, qui commandait à Limoges. Celui-ci venait, au nom, disait-il, de l'Allemagne, demander pardon aux représentants de la nation française. Geste qui, en ces circonstances, n'était pas facile, dangereux d'ailleurs. L'apprenant, des SS fanatiques, quelques jours plus tard, assassinèrent le général Gleininger, dont il n'aurait pas été inélégant, somme toute, que la mémoire fût saluée en ces jours de commémoration. Et André Figueras ajoute, c'est à propos d'Oradour que le maréchal Pétain déclare au plénipotentiaire allemand à Vichy, Rentefick, vous brûlez les villages, vous massacrez les enfants, vous souillez les églises, vous couvrez votre pays de honte, vous êtes une nation de sauvages. Impossible, dit Figueras, de faire état de cette déclaration à la télévision, cela suffirait à mettre par terre toute l'histoire officielle. Alors, voilà le genre de choses qu'on trouve dans mes opinions indépendantes sur, etc. Et puis alors, il y a un deuxième livre qui vient de paraître et qui est une toute autre aventure.
Ah, tout à fait, oui.
Et qui s'appelle froidement, si j'ose dire, Pour l'amour de Dieu.
C'est, je peux dire que c'est le premier Figueras de l'espèce. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais il n'y avait pas encore eu de Figueras comme ça.
Et dont je lis le prière d'inséré, un beau jour, quoi qu'on en ait, d'où qu'on vienne, il faut rencontrer Dieu, pourvu que ce soit dans une église où la messe est vraie, n'a pas été transformée en quelque chose de mou et morne, le choc est irrésistible, la foi est acquise, voici l'expérience ici humblement contée, avec le désir certain de ne blesser personne. Alors, ce que je vais vous demander, André Figueras, c'est pas tellement de nous dire le contenu du livre, qui est fort court, il fait 100 pages, mais qui est comme un bon coup d'alcool fort, c'est-à-dire que quand on l'a lu, on a tout compris, on a compris ce qui vous est arrivé, on en est d'ailleurs un petit peu éberlué. Mais ce que je voudrais savoir, c'est au fond, pourquoi avez-vous pris le risque d'écrire ce livre? Parce que c'est un risque indiscutable, étant donné que c'est un livre qui est tout, c'est probablement ce que vous avez, même certainement ce que vous avez écrit de plus profondément intime.
Évidemment.
Depuis le début de votre carrière.
Mais je vous dirais que c'est parce que là aussi j'en ai ressenti une espèce d'obligation. Et il y a eu cette particularité qu'il m'est arrivé là aussi une aventure exceptionnelle et la première de ma vieille vie, c'est que j'avais écrit un livre que j'avais d'ailleurs appelé « J'ai choisi Dieu », titre qui était finalement très maladroit et puis qui pouvait prêter à confusion. Et à l'instant où j'allais remettre ce manuscrit à l'imprimeur, je l'ai quand même relu. Je devais avoir un doute, je l'ai relu et je me suis dit, je ne peux pas publier ça. Je ne peux pas publier ça, c'est sur un ton insupportable, je ne suis pas théologien, je ne suis pas ecclésiastique, je n'ai pas le droit de parler de cette façon, je ne suis qu'un humble converti, un pécheur et un témoin. Je peux dire mon opinion, mon expérience, je n'ai pas le droit de juger. Alors, j'ai complètement réécrit, totalement, et réécrit d'une façon qui a surpris beaucoup de mes lecteurs habituels, parce que je crois que j'ai fait quelque chose, il y en a même un ou deux qui me le reprochaient déjà, quelque chose de beaucoup plus pondéré, de beaucoup moins violent que la première rédaction.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le premier surpris, ça a été vous, parce qu'au début de cette deuxième rédaction, au moins à trois reprises, vous revenez sur la surprise qui a été la vôtre, oui. Le jour où vous avez découvert que vous ne pouviez pas publier votre manuscrit, oui, qu'il fallait le refaire.
C'est ça.
Donc ça vous a...
Il y a eu là quelque chose qui a fait que je me suis dit non, il faut faire autre chose, il faut s'exprimer d'une autre manière, il faut aller plus profondément et non pas se contenter d'une espèce de polémique.
Quelles ont été les conséquences, si la question n'est pas trop indiscrète, les conséquences dans votre vie personnelle de cette publication à ce jour?
Sur le plan personnel, eh bien... Vous me posez la question, j'y réponds. Ma femme n'en a pas été très satisfaite. Elle a trouvé que c'était trop
intime.
Trop intime. Mais je me suis dit aussi que quand on aborde ce sujet, si on le traite, si on veut dire les choses, il faut les dire toutes ou pas du tout. Ça n'a pas de sens si on fait des secrets. D'ailleurs, puisque vous me mettez sur ce sujet délicat, mon fils Raphaël, moine bénédictin, comme vous savez, m'a écrit en me disant, ben, au début j'ai survolé, j'ai trouvé que c'était étonnant que tu dises tant de choses, mais après ça, en le relisant tranquillement, j'ai trouvé que ça passait très bien. Et alors il a ajouté cette phrase qui m'a fait rire, après tout saint Augustin en avait fait bien d'autres. Alors je
le
remercie beaucoup de la comparaison. Bon, alors ça c'est la première partie, qui est une espèce de confession publique, je crois avoir tout de même fait suffisamment discrète, enfin dans son expression, pour que chacun comprenne,
ah oui,
sans que je sois
obligé non plus d'étaler. Et c'est même très, je dirais, c'est comme c'est généralement ce qu'on attend d'une confession, c'est très édifiant, c'est-à-dire que d'abord on découvre un Figueras qu'on connaissait pas.
Oui, ça, je sais pas si l'intérêt a été voilé.
Bah si, pour ceux qui vous connaissent, c'est quand même intéressant de voir que vous n'êtes pas seulement le personnage qu'on croyait connaître. Et puis, on découvre surtout un combat personnel, un engagement personnel qui va très 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 loin,
oui.
Très loin. Et ça, c'est...
Ça a frappé un certain nombre de gens. Parce que je ne me contente pas de le vendre, je le fais circuler, je l'envoie à beaucoup de gens. J'envoie d'abord peu à peu à tous les évêques. Bon, je ne sais pas dans quelle mesure j'aurai les réponses, pas beaucoup sans doute. J'ai eu une assez bonne lettre de Mgr Elchinger, que j'ai un peu connu, et qui me dit prudemment, mais qui me dit tout de même nettement des choses. Et puis alors, j'ai eu des prêtres plus engagés qui me racontent d'ailleurs des choses extraordinaires. Par exemple, qu'il y a des églises où lorsque quelqu'un demande la communion à genoux, on veut la lui donner dans la main, le fidèle refuse, on lui pose l'hostie par terre ou sur la tête pour l'obliger. Et alors il y a un fidèle qui racontait, il racontait, en confession, à ce prêtre me le racontait, mais comme il ne me disait pas qui c'était, ça n'a pas d'importance, cet homme a fini par se pencher et ramasser par terre l'hostie avec sa bouche pour ne pas tout de même la toucher. Et un autre est resté. Il est resté, tout le monde est sorti, la messe était finie, il est resté. Et là, le prêtre a eu quand même un peu de remords, il est venu, il lui a donné l'hostie dans la bouche.
Eh bien, ceux-là, ils vont avoir deux, trois explications à donner. Je pense le jour, il va leur arriver ce que vous dites, c'est-à-dire qu'un beau jour, quoi qu'on en ait et d'où qu'on vienne, il faut rencontrer Dieu.
Oui,
au moins ce genre-là,
il aura un problème.
André, je suis désolé de vous expédier d'une façon aussi
cavalière,
mais l'essentiel, c'est de savoir que ce livre est paru, de savoir que vous serez dimanche.
C'est de le lire, comme disait Danunzio. Lisez mes livres et permettez-moi de déjeuner.
Et que vous serez dimanche. Et d'ailleurs, vous pourrez déjeuner, puisqu'il y a un buffet campagnard formidable.
Une certaine habitude de la chose.
Et puis, je suis sûr que beaucoup d'auditeurs seront contents de vous rencontrer, parce que vous êtes un homme selon notre cœur, c'est-à-dire une espèce de... Je ne sais pas quel mot choisir, je dirais un lansquenet de la plume, un joyeux lansquenet. Merci.
Puis on en reparlera un jour avec l'abbé Bayot, par exemple.
Par exemple.
Merci, bonsoir.
Alors après le lansquenet de la plume, je reçois le chevalier du pinceau, qui est un des personnages dont l'œuvre a illuminé ma jeunesse, puisqu'il s'agit de Pierre Joubert. Pierre Joubert, le dessinateur, le peintre... L'homme qui a illustré le prince Éric, entre autres, bien sûr. Et je ne le reçois pas pour parler du prince Éric, mais pour parler avec son éditeur, Gérard Le Tailleur, qu'on connaît, de la dernière œuvre.
La dernière publication.
La dernière œuvre qui va être publiée de lui. Et qui est, alors Gérard.
Alors, en fait, c'est un double anniversaire, enfin dans un certain sens, puisque nous terminons le cycle arthurien avec notre ami Pierre Joubert. Nous avons réalisé ce quatrième volume qui est le Saint Graal, toujours avec la traduction de Jacques Boulanger, qui donc depuis Merlin l'Enchanteur et à travers les trois premiers livres de notre cycle nous a, je crois, enchanté au niveau de la traduction, qu'on a retrouvé beaucoup de plaisir. Alors nous terminons avec le Saint Graal et la mort d'Artus, donc que Monsieur Pierre Joubert a eu la gentillesse de nous illustrer, parce que c'est la première fois de sa carrière que Monsieur Pierre Joubert a été confronté avec un mode de reproduction très particulier qui est celui du pochoir.
Alors ça, on en a déjà parlé avec vous ici. Voilà, on avait même reçu l'artisan. Pochoiriste.
Il y a les découpeurs, les coloristes, les pochoiristes. Voilà, effectivement, il y a trois distinctions.
Et le résultat, on va pas réexpliquer ce que c'est, mais on peut dire que c'est une splendeur. Ce sont les livres les plus beaux qu'on puisse imaginer. Pierre Joubert y apporte son talent et la couleur, parce que non seulement, c'est-à-dire que le problème avec le dessin de Pierre Joubert, c'est que jusqu'à présent, on l'avait vu beaucoup au trait, puisque en général dans les livres de la collection Signe de Piste, c'était des dessins au trait. La couverture était en couleur, mais le dessin intérieur était au trait. Et là, il y a un travail de miniaturiste.
Absolument. Et un travail de coloriste. Parce que vous avez une cinquantaine de passages en moyenne à la main par planche. Monsieur Pierre Joubert a réalisé une dizaine de planches, plus les lettrines, plus
les encadrements,
les rinceaux, etc. Donc, ce qui fait que ça fait en bout de course un livre tout à fait extraordinaire que Monsieur Joubert a.
Alors, Monsieur Pierre Joubert, la question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez tout d'abord, c'est la raison qui vous a fait accepter ce travail, parce que c'est vrai que c'est un univers dont vous êtes tout à fait familier, l'univers de la chevalerie. Mais est-ce que vous aviez, avant de rencontrer l'œuvre de Boulanger, est-ce que vous aviez déjà marqué de l'intérêt pour la geste d'Arthur?
Ah ben oui, bien sûr. Moi, je suis illustrateur. J'illustre ce que l'on me demande de faire. Alors, au début de ma carrière, évidemment, je n'avais pas à choisir. J'étais très content d'accepter ce qu'on me proposait. J'ai eu des préférences et évidemment j'ai toujours préféré, en principe j'ai préféré faire des livres historiques et aussi des livres sur la navigation. Alors évidemment, vous parlez du dessinateur scout. Ça, c'est une branche de mon activité.
Et c'est celle qui, moi, m'a marqué le plus, parce qu'effectivement, Joubert et Dallas, c'était pour nous...
Comme vous dites, j'ai surtout fait des dessins au trait. Bien sûr, j'ai fait des dessins au trait. C'était pour les livres, les collections Signes de Piste. Mais enfin, j'ai aussi, par la suite, beaucoup fait de couleurs. J'ai fait des albums en couleurs. J'ai travaillé pour Hachette en couleurs. J'ai fait des quantités de choses où j'ai utilisé la couleur.
Alors là, ce qu'on voit dans ces dessins, dans ces illustrations des ouvrages proposés par Gérard Le Tailleur, c'est à quel point le dessin est d'une précision magique. Il y a une espèce de mode maintenant qui s'installe d'un dessin un peu relâché, souvent, ou d'un dessin un peu exagéré dans la caricature. Et vous, c'est très étonnant de voir à quel point le dessin est proche du dessin réaliste, mais en gardant, peut-être que c'est dû à la couleur ou à la légèreté du trait, en gardant un caractère de poésie qui imprègne littéralement le dessin.
Ah ben, c'est-à-dire c'est le sujet. C'est le sujet, le Saint Graal, c'est le sujet qui incite à la poésie et au rêve. J'avoue qu'avec cette technique, j'étais très inquiet. Parce que moi, j'ai l'habitude de... je fais un dessin en couleur, je fais moi-même la couleur, bien sûr, et puis elle est imprimée telle que je l'ai conçue. Tandis que là, je fais d'abord le dessin au trait, enfin on l'a expliqué, je crois déjà, je fais le dessin au trait. Ensuite, je mets la couleur sur un tirage qui a été fait à part, et cette couleur ensuite est interprétée par des artistes.
Des coloristes.
Voilà. Alors comment vont-ils traduire les couleurs? Eh bien, évidemment, quand on met l'original à côté de l'impression, évidemment, c'est assez sidérant de voir avec quelle fidélité ça a été reproduit.
Surtout quand on sait que leur technique n'a rien à voir avec la vôtre, parce que vous, vous peignez avec un pinceau, couleurs.
Oui.
Et, tandis qu'eux font des découpes qui suivent la forme du trait que vous avez tracé avant de travailler au pinceau, et ensuite, avec ces découpes, ils font du pochoir, c'est-à-dire qu'ils couvrent les surfaces. C'est d'ailleurs très extraordinaire de penser qu'avec deux techniques aussi radicalement différentes, on arrive à une identité aussi parfaite entre le dessin original, la couleur originale et le...
D'ailleurs, je voudrais bien les voir, ces planches en couleur. Il y aurait moyen d'en voir une.
C'est très difficile de les voir à la radio.
Non, mais
peut-être que Gérard Le Tailleur acceptera de vous les montrer.
Ah oui, je voudrais
si
voir
vous êtes bien sage. Maintenant, je voudrais venir à une question qui me taraude, qui est une question de comment dirais-je, d'admirateur. Vous avez, toute votre œuvre, est, tout ce qu'on j'en connais en tout cas, est imprégné de beauté, de noblesse, d'esprit de chevalerie, de grandeur. Il n'y a jamais eu dans l'œuvre de Pierre Joubert, pour autant que je sache, les petits relâchements ou les petites fantaisies que se permettent certains grands dessinateurs. Ça vient d'où ce choix, cette espèce de volonté de ne faire que du beau?
Ça m'a été un peu reproché, figurez-vous.
J'imagine qu'on aurait aimé voir des dessins licencieux de Pierre Joubert. Certains auraient trouvé que c'était tout à fait amusant.
Qu'est-ce que c'est que la licence? Enfin, qu'est-ce que c'est qu'un dessin licencieux?
Ah ben maintenant, c'est très bien. Maintenant, vous ne faites que des dessins licencieux. Oui. À partir du moment où vous dessinez des chevaliers et des jeunes gens blonds aux yeux bleus, c'est à la limite de la pornographie. C'est bien clair.
Oui.
Dans l'esprit du politiquement correct, comme disait tout à l'heure.
J'avoue que je ne me suis jamais préoccupé de l'opinion qu'on aurait de mes dessins. J'ai fait ce que j'avais envie de faire. Quand je dessinais pour les scouts, je portais un peu un message. Enfin, je les idéalisais un petit peu, bien sûr. On me l'a reproché d'avoir trop idéalisé. Mais j'avoue que je n'ai jamais tenu compte des critiques, ni même d'ailleurs des compliments. J'ai toujours fait ce que je voulais faire et j'ai été satisfait avec ça.
Voilà. Mais vous faites partie avec Dallas et puis avec d'autres, je ne peux même pas citer les noms, mais on les connaît tous. Vous faites partie d'un groupe de créateurs qui, pour les gens qui ont mon âge, enfin, ou même certains plus âgés, des gens entre 40 et 60 ans, et même peut-être plus jeunes encore, et puis Philippe dit plus vieux également. Vous faites partie d'un groupe qui a
joué un rôle formateur extraordinaire. C'est vrai qu'on a appris beaucoup de valeurs à travers les livres de Dallas et les images de Joubert qui les accompagnaient. On a appris une certaine forme de chevalerie adolescente, une certaine forme de réserve, une certaine forme de pureté, de beauté. Et quand vous voyez la société d'aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas, c'est peut-être une question un peu cruelle, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu votre temps finalement, votre message était perdu dans les sables?
Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas l'impression. Vous parlez du scoutisme là.
Oui.
Le scoutisme a été une institution qui était nécessaire à l'époque, qui a créé énormément de courants. Tout n'est pas éternel. J'ai fait ce livre sur la chevalerie. La chevalerie a disparu. Elle a apporté quelque chose de positif. Et puis, ma foi, elle a disparu petit à petit pour être remplacée par autre chose, d'autres valeurs. Le scoutisme a donné énormément. Actuellement, il survit dans quelques associations. Il y aura peut-être autre chose qui le remplacera. Mais j'estime que tout n'est pas éternel.
Il y a une de ces...
Et alors, la jeunesse actuelle, ben non, moi j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'en ai 18 petits-enfants, et j'ai l'impression que ils ont d'autres valeurs, ils ont d'autres aspirations. Je ne vais pas leur... J'évite de leur dire d'être le vieux papa de mon temps. Voilà, je ne suis pas le papa de mon temps. J'ai fait, moi, mon époque, un peu critiqué, enfin, j'ai eu contre moi les anciens, les vieux. On
vous trouvez zazou?
Non.
Qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, les vieux?
Comment?
De votre temps, qu'est-ce qu'ils vous reprochaient, les vieux?
On nous reprochait de vouloir prendre nos responsabilités.
Oh, oui.
Vous savez, quand j'étais scout, j'ai eu contre... Enfin, nous avions, nous, les jeunes scouts de 1922, 23, 24, on avait contre nous l'enseignement, le clergé et les parents. Les parents avaient peur qu'on attrape froid, le clergé, parce que c'était un mouvement qui était protestant, qui était vaguement franc-maçon, et puis les instituteurs, parce que c'était du militarisme. Oui. On a réussi quand même.
Alors,
je ne veux pas maintenant jouer le même rôle que jouaient les vieux de mon temps. Voilà, c'est ça. Alors, faites ce que vous voulez. Faites votre société vous-même comme moi j'ai fait la mienne. Voilà.
Quelle est la partie de votre œuvre qui vous paraît la plus importante, hein, celle à laquelle vous êtes le plus attaché? Est-ce que c'est l'illustration, enfin la défense et l'illustration du scoutisme, ou les travaux d'histoire, ou
c'est quand même la collection Signes de piste. Mmh. Bon. C'est vieux, c'est passé, j'en fais plus maintenant. Bon, parce que.
Et plus personne n'en fait plus, puisque Signes de piste n'existe plus.
Je suis très content de voir le rayonnement de la collection Signes de piste auquel je me suis donné pendant des années et des années. Quand je rencontre des hommes influents, des hommes connus, dans des séances de dédicaces au Salon du Livre, on dit Joubert. Ah oui, Joubert, le prince Héry, Signes de piste. Alors ça, c'est Chaban-Delmas, c'est Chirac, c'est Rocard, c'est un peu tout le monde. Voilà.
C'est un peu le sens de la question que je vous posais tout à l'heure. Vous m'avez répondu différemment, vous m'avez répondu en parlant des jeunes d'aujourd'hui, mais moi ce que je voulais savoir, c'est ce que vous pensiez des jeunes d'hier qui sont maintenant devenus des vieux. Je pensais notamment à Rocard, et puis à tant d'autres.
Oui.
Donc quand on sait que Rocard ou Chirac ont été des scouts, on finit par se poser la question de savoir si vraiment ça sert à quelque chose. Je ne voudrais pas vous attirer sur un terrain qui n'est pas le vôtre, mais voilà le sens, c'était bien le sens de ma question. C'est-à-dire, vous avez répondu aussi que le scoutisme se survivait, et dans certaines associations, avec beaucoup de vigueur. Je crois que c'est le cas d'une des associations de scouts, enfin d'un des mouvements scouts qui est à votre faveur, je crois pouvoir le dire, c'est les scouts de Riomont.
Oui.
Et puis les scouts de Riomont qui sont des...
Ah ben, les scouts de Riomont, ils sont marginaux,
oui.
Il y en a très peu.
Mais c'est la bonne marge.
Non, ce qu'il y a, c'est qu'il y avait jadis quatre associations scouts avant-guerre, catholiques, protestants, neutres et israélites. Bon... ensuite, ça a éclaté dans des quantités, dans des foultitudes de mouvements. Je ne les critique pas, c'est un signe des temps. chacun veut faire son scoutisme.
C'est un rassemblement.
Alors les Riomont, je les ai aidés parce que j'y suis allé. Voilà. Mais je trouve que c'est un peu un non-sens d'avoir ces quantités d'associations qui se disent plus ou moins scouts, plus ou moins chrétiens.
En tout cas, Riomont joue un rôle fédérateur. On va pouvoir le voir samedi prochain, le 25, puisque je profite de votre présence pour l'annoncer. C'est la grande nuit de Riomont, au cours de laquelle des centaines et peut-être même des milliers de scouts convergent vers le village de Riomont et donnent un spectacle qui est quelque chose de tout à fait stupéfiant par le déploiement d'énergie que ça représente. Donc j'invite les auditeurs à aller à Riomont samedi. C'est très facile, c'est à 2 heures en voiture, on y sera nous, toute la bande, pour applaudir les scouts et puis pour saluer le père Argouache. Est-ce que j'imagine que vous avez lu les livres de Boulanger avant de les illustrer?
Non.
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 Et comment avez-vous fait?
J'ai fait une couverture sur l'histoire d'Espaïs, c'est tout, je crois.
Non, je parle des livres sur le Graal.
Ah, excusez-moi, non. Oui.
Enfin, sur le Graal. Parce que le geste d'Arthur.
Mon prédécesseur.
C'est pas le même Boulanger. C'est pas le même Boulanger.
Ah, bah, bien sûr que j'ai lu, bien sûr que j'ai lu les livres du Graal.
Or, c'est un univers, l'univers de la chevalerie dans lequel vous.
Oui, mais je les connaissais déjà.
C'est ça,
j'avais déjà lu tous les romans de Tableron, je les ai démarrés quand j'avais 14 ans.
Mais dans cette version-là? Vous n'en souvenez pas?
Sûrement pas, ouais. Non.
Parce que, qu'est-ce que vous en pensez de cette version? Comment l'avez-vous trouvé par rapport au souvenir que vous aviez de l'œuvre?
Le livre du Graal, les livres du Graal, je les ai lus, j'avais 14-15 ans. Je l'ai dû les relire ensuite, parce que au feu de camp, à mes scouts, je leur lisais des passages. Le livre de Boulanger, oui, je l'ai relu, mais je l'ai relu en pensant beaucoup plus à l'illustration que j'allais faire qu'au texte. Alors j'aurais du mal à donner un avis positif ou négatif. Disons positif quand même, parce que j'ai rien vu qui ne pouvait.
C'est très intéressant ce que vous venez de nous dire, parce que c'est vrai que vous, comme vous êtes dans la même situation qu'un compositeur qui lit une partition, il entend la musique dans sa tête. Et vous, quand vous lisez un livre, vous devez, plus encore que le lecteur moyen, voir les images immédiatement qui s'imposent. Alors, est-ce que c'est votre travail être un travail de tri ou un travail de... Est-ce que vous avez du mal à faire naître une image, ou est-ce qu'au contraire, vous devez écarter des tas d'images parasites pour arriver à la bonne image?
Ah ben, j'écarte des tas d'images. Remarquez, l'éditeur m'a dit il faut 8 planches. Il y avait de quoi en faire une vingtaine.
Oui, j'imagine.
Alors, donc, il y a forcément un tri.
Il y avait beaucoup de scènes de bataille, notamment.
Oui, c'est ça, oui. Alors donc, ce que j'ai essayé, c'est de faire, d'abord d'en trouver 8, d'en sélectionner 8, et puis de les faire assez variés pour ne pas qu'il n'y ait que des batailles.
Qu'est-ce qui est à votre faveur, justement? C'est plutôt les scènes de bataille, ou plutôt les scènes d'amour courtois?
Non, il n'y a pas de faveur, ce qu'il faut, c'est varié.
C'est ça.
J'ai pas plus de plaisir à faire une scène de bataille qu'une scène d'amour courtois, comme vous dites. Ce que j'aime, c'est varier. Quand j'ai illustré un sujet, j'ai envie d'en faire un autre. Alors donc, ce qu'il faut, c'est varier.
Est-ce que vous vous définiriez comme un artiste ou un artisan?
Artisan.
Je m'en doutais un petit peu, à vrai dire.
Artisan.
C'est la qualité des vrais artistes, c'est de se dire artisan.
Non, un artisan, parce que l'artiste, c'est le peintre de chevalet qui fait des tableaux selon son idée, il est inspiré par la nature ou par une idée quelconque, et ensuite il va dans une galerie et pour espérer vendre son œuvre. Tandis que moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, toujours, ça m'a toujours été commandé. Donc quand j'ai fait un dessin, je savais qu'il était vendu d'avance, parce qu'il était commandé. Donc je suis un artisan, l'illustrateur est un artisan.
Vous nous disiez tout à l'heure que vous avez 18 petits-enfants.
Oui.
Est-ce qu'ils se rendent compte du grand-père qu'ils ont? Est-ce qu'ils sont sensibles au fait que vous êtes un dessinateur, et quel dessinateur? Est-ce qu'ils vous demandent parfois des dessins?
Ah oui, énormément. Là, récemment, j'ai une petite fille qui vient de faire sa première communion. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Comme effet du cheval, elle m'a dit, un cheval.
Un cheval dessiné.
Oui, oui. Alors, en principe, tous mes petits-enfants me réclament des dessins pour leurs copains, pour dessiner, pour illustrer pour mettre dans leur chambre. Et puis, quand ils ont 20 ans, alors ils viennent choisir parce qu'il y en a, sur les 18, il y en a plusieurs, il y en a 5 qui ont dépassé la vingtaine. Mm-hmm. Alors pour leurs 20 ans, ils viennent de demander un bel original.
Vous allez être arrière-grand-père un de ces jours.
C'est chouroche, oui.
Et mon ami et dessinateur Jean-Marc Leroux, qui collabore au Libre Journal de la France courtoise, est un dessinateur. Il est le fils d'un monsieur qui était un industriel, mais qui est un aquarelliste merveilleux, d'intelligence et de délicatesse. Et ses petits-enfants, pas ses enfants, mais ses petits-enfants, son petit-fils notamment, marquent des dispositions très particulières pour le dessin. Alors on en viendrait à penser, contrairement à ce que disait Lysenko, qu'il y a peut-être quelque chose d'inné dans le don pour le dessin. Est-ce que vous êtes, vous, descendant de dessinateurs, et est-ce que dans vos enfants et petits-enfants, il y a des dessinateurs ?
Je ne suis pas, non, dans mes ancêtres, il n'y a aucun dessinateur.
Et dans vos descendants ?
Dans mes descendants, il y en a eu, mais je crois qu'avec les techniques des nouvelles des jardins d'enfants, tout le monde... Comme j'ai commencé à dessiner en classe enfantine, on dit au jardin d'enfants, on avait droit à des crayons de couleur qui cassaient, et du papier glacé, enfin, on n'avait pas les feutres, on n'avait pas les couleurs qu'ils ont maintenant. Or, actuellement... tous les gosses dessinent remarquablement, étant donné le matériel qu'on leur met sous la main. Voilà. Alors j'ai quand même des enfants qui ont fait des carrières, qui ont essayé de faire des carrières artistiques, qui ont fait l'école de Penningen, qui ont fait les métiers d'art, et finalement ils ont bifurqué vers autre chose parce que le métier d'illustrateur, de dessinateur est extrêmement difficile.
Quand vous voyez, si ça vous arrive, les dessins des dessinateurs actuels, je pense à la bande dessinée par exemple, est-ce que vous pensez que cet art du dessin ou cet artisanat de l'illustration a gardé la qualité qu'il pouvait avoir il y a 30 ou 40 ou 50 ans? Ou est-ce que vous pensez que dans ce domaine aussi il y a une dégradation?
Non, il n'y a pas de dégradation. La bande dessinée c'est autre chose. C'est une nouvelle formule. Ça apparaît dans le dessin comme la télévision apparaît dans la littérature, enfin si vous voulez. Oui, voilà. Alors la bande dessinée, c'est une forme d'expression graphique qui a sa valeur. Il y a des grands arts en bande dessinée. Et puis il y a des navets, il y a des héros, quoi. Mais sinon, la bande dessinée, c'est vraiment une technique. C'est peut-être la technique d'avenir, mais ça demande une très grande sélection. Alors il y a vraiment des gens de la... Moi, j'aime beaucoup la bande dessinée, je serais absolument incapable d'en faire.
Il y a eu une grande bande dessinée de scoutisme qu'on lisait en même temps qu'on lisait d'ailleurs les signes de piste, c'était La Patrouille des Castors.
De Michel Tac, qui était...
Alors, c'était un grand dessinateur, selon vous ?
Non. Bah, mais Michel Tac, il est venu chez moi pendant... passer un été, faire un stage. Ouais. Ouais. Je le connaissais bien. Je l'ai vu à ses débuts. Non, lui, c'était... Cette bande dessinée qu'il faisait, c'est beaucoup plus de la littérature que de l'art. Voilà. Mmh. Voilà. C'est un artisan, c'était un excellent artisan. C'était parce que, malheureusement, il a disparu brutalement.
On peut toujours d'ailleurs lire ces histoires, enfin les histoires de la Patrouille des Castors qui sont qui ont gardé, c'est pour ça qu'elles ont disparu de Spirou dans lequel elles paraissaient, qui avait un côté parfaitement moral et sain.
Oui.
C'était une exaltation de la santé de la jeunesse, alors que maintenant on va plutôt dans le sens contraire. D'ailleurs, tiens, je voudrais dire à ce propos que peut-être les éditions du Triomphe pourraient peut-être se pencher sur l'œuvre de Mitak. Ça serait une bonne occasion peut-être de faire de la réédition. Il faudra que les éditions du Triomphe, que vous verrez d'ailleurs également dimanche au stand du Libre Journal, à la grande journée du livre de Radio Courtoisie. Est-ce que vous y serez, Gérard ?
Ben, avec plaisir.
Pour présenter
Saint Graal
quelques planches. Les planches magnifiques. Bon, c'est pas descriptible à la radio. Et puis monsieur Pierre Joubert n'aime pas les compliments. Une dernière question, Monsieur Pierre Joubert, si vous permettez. À quoi travaillez-vous maintenant ?
Est-ce que vous acceptez de nous le dire ? J'ai 84 ans.
Oui, mais ça, c'est pas
alors,
une excuse.
J'ai ralenti.
Ça n'est pas une excuse pour derrière.
J'ai pas mal ralenti, etc. Alors, j'ai dû renoncer depuis très longtemps aux livres, enfin, aux illustrations importantes. J'ai dû dire à mes éditeurs, ben non, c'est fini, je ne peux plus travailler. D'abord, je suis fatigué, puis je ne veux pas être bousculé par des délais. Alors la seule chose que j'ai commencé, parce que j'ai tout mon temps, et puis ça ne demande pas un travail. Ça va vous paraître bizarre, mais ça ne demande pas un travail considérable.
Bien sûr, ça n'est rien du tout.
Non, ça n'a pas le travail considérable que me demandaient certains dessins au trait. Eh bien, donc, j'ai démarré avec les ordres chevaleresques que m'a demandé Monsieur le tailleur.
Donc, vous préparez
un livre de blason.
Hein? Un livre de blason également.
Je ne sais pas s'il y aura des blasons. Non, non, c'est non. Les ordres chevaleresques, c'est l'histoire de tous les ordres chevaleresques en France, depuis le premier ordre de la Sainte Ampoule jusqu'à la Légion d'honneur. Voilà.
Donc, ben, je vous souhaite bon repos, alors, voilà. Parce qu'apparemment, ça
alors,
pas...
c'est je vais pas être bousculé, puis c'est que ça va être joli. Et puis, non, sincèrement, le livre du Saint Graal, là, ne me demande pas un travail aussi difficile que lorsque j'ai fait, par exemple, le dernier bouquin que j'ai fait et que je ne ferai plus, c'est L'île au trésor, et puis le livre de la jungle, oui. Stevenson, ça me demande un gros travail parce que il y a des effets de couleurs à faire au pinceau beaucoup plus difficiles que les aplats que je fais dans les éditions Affaires au pochoir.
Et puis il y a peut-être maintenant, à 84 ans, vous nous avez dit, il y a peut-être moins de recherches à faire parce que vous devez avoir dans la tête toute la documentation nécessaire.
Hein. Ah ben ça, la documentation, je l'ai commencé quand j'ai commencé à dessiner. Les professeurs nous disaient documentez-vous. Alors maintenant j'ai un meuble entier qui est rempli de tous les documents que j'ai. Pourquoi quand j'ai fait le Saint Graal, ça m'a pas demandé de difficultés parce que les chevaux, les armures, les blasons, j'en ai plein.
Merci Monsieur Pierre Joubert, merci Gérard Le Tailleur. Alors
merci,
on se voit dimanche.
Donc avec grand plaisir.
Et nos auditeurs pourront
regarder donc
admirer
les planches.
Moi, à mon avis, ils voilà. Vont pas résister. Qu'est-ce que vous voulez? Non, elle veut toujours parler du prix.
Moi, je voudrais parler du prix parce que je suis tellement éblouie par ce livre que je me demande combien.
C'est un ouvrage qui représente, je dirais, un certain coût. c'est autour à peu près de 1000 francs, si vous voulez. En gros,
il faut être clair. Il faut savoir ce que ça représente comme. Il faut savoir quel travail ça représente. C'est gigantesque. Alors, c'est un peu, quand on demande le prix et qu'on dit c'est cher, c'est un peu comme si on mettait en comparaison. Non, vous n'avez pas dit ça, mais j'entends beaucoup de gens le dire quand je montre mes livres et qu'ils me disent. Mais combien tu payes ça? Je leur dis, ils m'étaient fous. Enfin, écoutez, si vous mettez en comparaison une Rolls-Royce et une R5, évidemment, la Rolls-Royce est beaucoup plus chère que la R5. C'est évident, c'est beaucoup plus cher. C'est pas tout à fait le même usage, voilà, c'est ça. Non, c'est. Bon, moi, c'est mon. Comment dirais-je? Ma manie, ma folie. C'est toujours aussi bien que de faire d'autres choses. Les petites femmes, le tabac, et aller dans savoir quoi. Bonjour Marie-Antoinette.
Bonjour tout le monde.
Ça va ma puce?
Ça va, la puce a maigri. La puce a maigri parce que elle est presque excédée par la chaleur. Là-bas, il fait une chaleur torride. C'est parti, il y a au moins 35 degrés.
Alors vous serez aussi dimanche pour présenter vos ouvrages, vos impérissables ouvrages de sauvetage. On peut dire, des corps
et des âmes.
Vous faites pour le corps le même travail que Serge Dalens et Pierre Joubert ont fait pour les âmes, c'est-à-dire que vous apurez. Voilà. Je rappelle que vous êtes herboriste.
Vrai
herboriste, herboriste diplômé, d'avant la suppression du diplôme.
Du 10 juillet 41, voilà. Et le diplôme a été supprimé en septembre.
Il était temps. Ah bon, ben alors voilà, Pierre Joubert nous dit « Ma mère était herboriste.
Ouais, » Alors je vous salue bien bas parce que c'est mon ancienne, alors c'est parfait. Je suis la plus jeune, vous comprenez, alors. À 74 ans, la plus jeune, oui, ce que ça donne.
Mais vous êtes un bébé aussi.
Oh, un bébé, je
resplendissante de santé. Non, c'est normal d'ailleurs.
En venant d'où nous venons.
Alors, oui, d'abord parce que vous vivez dans une des plus belles régions de France, qui est le Midi, encore que... Alors, il fait très chaud là-bas, vous
dites. Il fait très chaud, et puis c'est surtout une certaine promiscuité qui me gêne beaucoup.
Ah oui, mais je vois pas du tout de quoi vous voulez parler.
Non, plus, moi non.
Non, pas du tout. Rappelez-nous les titres des ouvrages que vous allez nous présenter de dimanche.
Eh bien, j'aurai le premier, qui a été écrit en 86, Secret d'une herboriste. Le second, c'est Réponse à 200 maladies par les plantes, c'est-à-dire vous aurez 200 recettes. Le troisième, Élixir de santé de votre herboriste, 180 recettes à faire soi-même. Ensuite, Soignez vos animaux par les plantes, que j'ai fait en collaboration avec le docteur Rousselet Blanc. Ça marche très bien. Ensuite, Balcon et terrasse de l'herboriste. Et le dernier, j'en ai pas le droit, donc j'ai pris le gauche. Les plantes oubliées, les plantes mystérieuses de l'herboriste, les plantes amazoniennes. Ah. Elles sont formidables.
Alors, Vous nous parliez tout à l'heure de la chaleur. C'est pour ça que je suis revenu à cette question. Est-ce qu'il y a, par exemple, des médications, des décoctions, des infusions qui permettent de mieux résister aux effets de la chaleur?
Vous avez la cirola, qui est une cerise du Mexique, 1 gramme par jour pendant 10 jours. C'est plein de vitamine C.
Alors, où trouve-t-on la cérola?
Chez moi, pardon. Chez les herboristes, dans les pharmacies, 1 gramme par jour, 10 jours consécutifs. La prendre le matin, parce que c'est une poudre, moi je vends ça en poudre, je mets ça dans le thé, et dans le gramme que je mets dans mon thé représente au moins 50 kilos d'orange. Alors, ça énerve un petit peu.
Faut 50 pas le kilos d'orange.
Soir. C'est formidable, oui. Cette cérola.
Et ça a quel effet, alors?
Eh bien, c'est un
c'est pour ça.
Régénérateur cellulaire. Ça aide la vie sexuelle. Moi, je m'en fous pas mal. Là. J'ai passé l'âge.
Écoutez, je vous en prie.
Mais ça fait le mental de vos auditeurs. Hein, je vous en prie.
Alors là...
Non, ensuite, vous avez... c'est évidemment, c'est une puissance... les immunités naturelles sont renforcées. C'est un régénérateur, vraiment.
Alors, on a vu la chaleur, maintenant voyons le soleil. Est-ce qu'il y a des produits ou des herbes, des décoctions, des infusions qui sont de nature à accélérer le bronzage, à éviter les...
La carotène, évidemment, la carotte, la vitamine A. Mais ce qui est très bien, c'est...
Moi, j'ai jamais remarqué que les lapins étaient tellement bronzés. Hein.
Non, mais ça fait des cuisses roses, la carotte, paraît-il. J'ai jamais regardé les cuisses des lapins.
J'ai mangé,
je mange pas lapin. Non, mais quelque chose qu'on fait beaucoup dans le midi, que toutes les familles provençales ont de chez elles dans leur usine, boîte à pharmacie, c'est l'huile rouge, l'huile de millepertuis.
Alors, comment ça se
fait? Il faut prendre du millepertuis, ça se trouve dans les murs, c'est une fleur jaune. Vous mettez ça dans un litre d'huile, vous le mettez en plein soleil pendant 8 jours, l'huile devient rouge. Vous le passez, vous bouchez le flacon, vous jetez les feuilles bien sûr, vous bouchez le flacon, vous mettez un papier argenté tout autour parce qu'on n'aime pas tellement qu'il y ait de la lumière. Et en cas de coup de soleil, de brûlure, ça ne vous empêchera pas d'avoir un coup de soleil. Ça vous empêchera de souffrir du coup de soleil. Même pour les ampoules de chaussures.
C'est pire que tout. Les ampoules de
chaussures. Les ampoules faites par les chaussures, oui.
Alors
c'est une brûlure, une ampoule.
Oui.
Et donc ça fait un bien énorme.
Ça réduit.
Ça réduit. Ça cicatrise.
Je ne voudrais pas vous poser de questions qui risqueraient de vous engager sur un terrain délicat, mais est-ce qu'il y a des produits qui pourraient nous permettre de régler certains problèmes politiques? On inviterait par exemple, je ne vais pas donner de nom, mais enfin une personnalité, on lui fendrait un cocktail, et puis quelques jours plus tard...
J'ai essayé d'envoyer certaines plantes, surtout la balsamique, c'est la plante qui fait rire.
Ah oui.
Mais je pense que ça n'a pas dû réussir.
Qu'est-ce que c'est cette plante?
Ça s'appelle la balsamique, mais je mets ça dans mon anti-stress.
Mais c'est formidable, ça donne une plante qui fait rire.
Oui, il paraît que ça donne de la bonne humeur, ça fait rire. Enfin, j'ai essayé, chez certaines personnes, ça n'a pas marché.
Ils ont peut-être pas pris.
Je ne sais pas, ils ont peut-être triché. Hein. Ou alors le mal était incurable. Ce qui est fort possible encore.
Alors, vous nous avez cité tout à l'heure les livres que vous,
il y en a 6.
Que vous allez apporter. Est-ce que vous travaillez là sur une
en ce moment, projet oui. Pardon. En ce moment, j'ai reçu de Bethléem d'un père, dominicain, je crois. De Bethléem, toute une étude sur une plante qui est ancienne comme tout, dont je parle dans un de mes bouquins, dans un dernier bouquin, c'est-à-dire l'aloès, aloe vera.
Et dont on se sert pour empêcher les enfants de
se ronger les ongles, ou alors ou que les nourrices se mettent au bout du sein pour sevrer les os.
Oui.
Et il paraît que ça a une incidence sensationnelle sur tout ce qui est cancer. Alors comme je ne veux pas me lancer à la légère, je ne dirai pas que je guéris du cancer, que j'irai peut-être en prison. On n'en met pas d'autres qui devraient y aller, mais moi je...
Mais non, mais ça, il faut savoir...
Vous apporteriez de la vitamine C,
il faut savoir une chose, un jour j'espère qu'on recevra à cette émission des gens qui nous expliqueront ce que c'est que l'affaire Beljanski. Il faut savoir qu'en France, si vous prétendez avoir une méthode... de nature à éviter ou à guérir le cancer, vous allez directement en prison sans passer par
le départ.
Parce que le cancer, c'est quand même une énorme affaire sur le plan
financier.
Ça rapporte des milliards. Alors si vous arriviez avec votre aloès en disant, tenez, prenez-donc un peu d'aloès et votre cancer va guérir, vous pensez bien que les laboratoires et le docteur Mortimus va vous tomber
on
sur...
On parlera de rémission. On va me parler de rémission. C'est un mot que j'aime bien, la rémission. Oui.
Dans les sous-sols d'un grand hôpital, autrefois, il était écrit que le cancer nourrissait beaucoup plus d'hommes qu'il n'en tuait.
Mais exactement, c'est votre avis.
Alors, les questions, comme toujours, arrivent. Je les pose...
De reste, il faut que je remercie toutes les personnes qui m'ont écrit. Hein. Parce que vous m'avez annoncé, lorsque je n'avais pas pu venir,
oui.
J'ai eu plein de gens, et je les remercie, je les embrasse.
Mais vous leur avez répondu, quand même.
Ben, je réponds à tout le monde.
Voilà, c'est bien. Alors une auditrice nous dit qu'elle est contente de vous entendre, ce qui est bien, et elle ajoute, quand j'étais petite, mes parents me faisaient des infusions de mauve. Oui. À quoi cela sert-il, demande-t-elle?
C'est un adoucissant, c'est-à-dire si elle toussait, ça l'empêchait de tousser, hein. Et si elle avait des histoires intestinales, ça lui permettait d'amener à la défécation. C'est un adoucissant intestinal et bronchique.
Alors, une question qui est probablement un petit peu perverse, mais je la pose quand même.
C'est pas grave.
La tisane des nénuphars.
Ah, je sais ce qu'on va me dire.
Pourquoi la recommandait-on aux séminaristes et aux marins au long cours?
Eh bien, c'est parce que c'est le bromure naturel. Et j'en vends pas mal dans les maisons de retraite, parce que paraît-il qu'il y a des petits vieux qui se croient encore tout jeunes.
Eh ben oui.
Alors, le nénuphar, de reste, moi, quand nous étions étudiants, on faisait de drôles de farces à nos collègues, hein, à nos copains.
Oui.
On leur faisait boire du nénuphar, et puis c'était toujours 6h30.
En revanche, alors, il est un peu tard, on peut peut-être poser la question de savoir s'il y a quelque chose qui est le contraire de la tisane.
Mais bien sûr, tout le monde connaît ma poudre à zizi. C'est de Chavannes qui l'a baptisé, c'est le coup de l'étrier.
Ah bon?
C'est un mélange de 7 plantes à hormones masculines. C'est un remontant physique, intellectuel et sexuel à condition que l'utilisateur n'ait pas les artères bouchées par le cholestérol ou par le sucre.
Alors, s'il a les artères bouchées par le cholestérol, qu'est-ce qu'il faut qu'il prenne pour...
À ce moment-là, il faut prendre une balayette et puis les déboucher. Non, il faut prendre contre le diabète. Bon, ben, évidemment, les médecins. Heureusement que nos médecins sont là pour nous aider. Hein.
Oui, parce ça, que... je pourrais vous en parler longuement.
Oui, mais moi aussi.
Effectivement.
J'ai quand même mon petit externat en médecine derrière moi.
C'est vrai que si je suis présent ce soir,
je sais bien, puis...
c'est grâce au médecin qui n'est pas revenu à la maison. Donc, vraiment.
Je vous ai suivi de loin, moi je demandais de vos nouvelles.
C'est gentil. Mais donc j'aurais mieux fait de vous téléphoner d'ailleurs à cette époque-là.
Ben, ouais. Je vous aurais donné du lapin chaud qui renforce les immunités naturelles. Et vous
le
lapin chaud. Ah. Lapin chaud et lapin chaud et acérola. Ce sont deux plantes sensationnelles.
Alors donc pour en revenir notre cholestérol.
Alors donc, cholestérol, diabète, donc j'ai un mélange diabète quand ils ne sont pas insulinodépendants, quand ils sont sur glucophage ou sur daonil. Pendant la cure, ils laissent le glucophage à moitié, ou daonil à moitié. Et alors j'ai quelque chose qui est contre le cholestérol sensationnel, 10 jours par mois pendant 3 mois, Chrysanthellum americanum. C'est une plante formidable.
Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? On trouve ça
On trouve ça n'importe où, en herboristerie, en pharmacie. C'est une plante dont on prend 10 jours par mois, pendant 3 mois, prise de sang, tac, ça marche.
Il faut dire une chose, parce que là, on s'engage sur un terrain qui est généralement miné, c'est que vous avez le droit de dire ce que vous êtes en train de dire.
Ah ben moi j'ai le droit, je suis diplômé, j'ai un diplôme.
Je le rappelle, vous êtes
herboriste. J'ai assez trimé sur les plantes pendant des années pour l'avoir. Hein.
Non, je dis ça parce que souvent il m'arrive d'inviter des personnes sur cette radio.
Oui, attention, oui.
Et après, on me fait le reproche de donner la parole à des charlatans.
Non, non, je ne risque rien.
Là, ça n'est pas le cas.
J'ai écrit 6 bouquins. Ils ont été très bien acceptés. Beaucoup de médecins. Vous voyez, j'en suis à la 11e édition de Secret d'une herboriste. Il y en a 4000 par édition. J'en suis à la 11e, 12e. Donc, je travaille avec des médecins, avec des pharmaciens. Et je n'ai jamais eu d'ennui parce que grâce à Dieu, nous les avons, je vous dis encore une fois. Et pendant que moi, je donne un petit peu de les plantes, mes petits, je suis la petite sœur des pauvres du reste. Des pharmaciens et des médecins. Et pendant que ces plantes que je travaille, sur lesquelles je travaille, que j'étudie, donnent des rémissions, pendant ce temps, nos chercheurs finiront bien par trouver le vrai.
Alors, est-ce qu'on trouve encore des plantes de bonne qualité? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Pendant un moment, je ne sais quel herboriste industriel avait dit il y a de la poussière, il y a des insectes dans les sachets, il faut éviter tout ça.
Mais vous savez, les plantes sont bonnes pendant une année. Moi, je fais 1 tonne par mois de plantes et les plantes, elles sont brûlées toutes les années au mois de juillet. C'est le low cost, ça s'appelle ça. Moi, je brûle mes plantes ce jour-là.
Le low cost, c'est
le feu dont le
parfum plaît à Dieu.
Voilà, ben c'est parfait. Je reçois mes plantes et chaque lot, tous les lots que je reçois, est accompagné d'une fiche d'analyse. Donc je ne risque rien.
C'est pas vous qui allez les cueillir dans la montagne.
Pour amis, avec tout ce que je vends, si j'allais les cueillir, je serais malade. D'abord, à mon âge maintenant, je ne pourrais plus me relever.
Donc, comment ça se passe, la récolte des plantes? Vous avez des...
Eh bien, j'ai un monsieur qui est venu me voir encore ce matin, avant de partir. Là, j'ai vu l'établissement Caillot, à Chemillé, dans le Maine-et-Loire. Ils ont des ramasseurs qui apportent les plantes chez eux. C'est stocké. Il y a le bureau d'analyse, enfin, le laboratoire d'analyse à côté. On fait ça par lot. Et on prélève. Et on fait des analyses. Et quand c'est bon, si c'est correct, on nous les envoie. Maintenant, je suis soumise à la répression des fraudes, au conseil d'ordre des pharmaciens, à l'inspecteur des pharmacies et au poids des mesures. J'ai trois. Oui, qui viennent vérifier si nos robes ne volent personne.
Sans compter le fisc.
Ah, mais ça, ma foi, mais ça, c'est une. On va l'autoriser.
Alors, une auditrice nous dit, mais l'ALOS est connu depuis très très longtemps, oui. Ça n'a rien de nouveau. Je crois que c'est exactement ce que vous étiez
en train de dire. Ça n'a rien de nouveau, justement, parce que c'est un père de Bethléem qui m'envoie ça. C'est plantes oubliées, dans mon bouquin, il y a plantes oubliées, plantes mystérieuses, oui. Mais on le remet au goût du jour, actuellement, et je suis en train de faire des préparations. J'ai fait essayer sur un chien, il y a 2 mois et demi.
Il court encore.
Qui avait un cancer à la mâchoire, le vétérinaire n'en revenait pas. Eh bien, on lui a mis, on lui a fait passer un mélange, je fabrique, je touille. Hein. Je suis toujours en train de faire des petites préparations. Moi. Et j'ai reçu, il y a 5-6 jours, une boîte de chocolat, parce qu'on sait que je suis gourmande, du chien, mais qui a cicatrisé.
C'est de l'herbe aussi, le chocolat.
Attention, c'est... le chocolat est aphrodisiaque. Hein.
C'est pas vraiment une herbe, mais c'est une baie.
Ben oui, le cacao.
Et une auditrice, un auditeur nous dit, il existe une plante africaine qui s'appelle, alors je crois, Pinospora bacchis, pour l'hépatite. Peut-on en obtenir par votre intermédiaire?
Non, parce que moi j'ai quelque chose contre l'hépatite virale. Ça s'appelle l'hépatique des fontaines. Et vous savez que nous n'avons pas le droit d'utiliser en herboristerie, parce que notre diplôme nous donne des droits mais des devoirs. Nous ne devons pas utiliser des plantes qui n'ont pas été travaillées en France, qui n'ont pas été étudiées en France.
Justement, à ce propos, puisque ce monsieur nous parle de Pinospora bacchis, qui est une plante africaine, est-ce que vous avez eu des contacts, des rencontres avec les herboristes africains?
Non, pas du tout. Mon mari était à Dakar, il était phlébologue à Dakar, et je recevais beaucoup de plantes. Le quinqueliba n'a plus de secret pour moi. Hein, c'est le combretum. Ils s'en prennent pour le foie, ils en prennent pour tout. Mm-hmm. Seulement, ce qui est très ennuyeux avec justement les ethnies, c'est que ça change de nom d'une ethnie à l'autre. Et comme là-bas, il n'y a pas de nom latin, parfois... J'avais une guerre, mais plus, moi, je ne sais pas le dire. Hein. Des plantes qui étaient vraiment, qui m'apportaient. Ils me mettaient ça sur le massilia, elles arrivaient un petit peu pourries, mais enfin. Et ils me donnaient évidemment des renseignements afférents à ces plantes. Et depuis la mort de mon mari, je ne reçois plus rien du Sénégal.
Alors, une auditrice nous dit que pendant 2 ans, elle a eu des acouphènes. Ça, c'est un cauchemar.
Oui, là, c'est épouvantable, ça, dans les oreilles.
C'est des bruits dans les oreilles. Oui, dans les oreilles. Sifflements, oui. des petits battements. Et elle dit, j'ai guéri ce trouble moi-même en consommant, tant pis pour l'entourage, une gousse d'ail par jour pendant 6 mois, et c'est complètement parti.
Ben c'est très bien, parce que c'est sûrement la tension qu'elle avait. Elle avait eu beaucoup trop de tension dans le cerveau, et comme l'ail est très bon contre la tension, ça a très bien marché. Moi, je donne du ginkgo biloba, plus de la pervenche pour ça. Pour la circulation, qui dilate les artères, qui rend beaucoup la circulation plus fluide dans la tête. Ginkgo biloba et pervenche.
Ça sent moins fort que, que l'ail.
Oh, ben vous savez l'ail. Vous savez d'où je viens, moi.
Ben oui, justement, chez vous, tout le monde.
Alors là, tout le monde en mange tellement qu'on ne se sent plus.
Une auditrice, que pensez-vous des arcogélules?
Ben, je ne fais pas de gélules. Dans mon magasin, du reste, dans mon officine, il y a dessus. Ici, vous ne trouverez aucune gélule de plantes, je suis tout à fait contre.
Ah bon, pourquoi?
Ben, parce que je suis herboriste. Une herboriste, c'est les plantes, c'est pas la poussière de plantes qu'on colle dans les gélules.
Et ça n'a pas
le... Alors, je prends des médicaments en gélules, j'en prends des médicaments de synthèse. Ouais. Je prends du nifluric, par exemple, parce que, comme vous savez, j'ai un bras qui est bon, hein. Mais je ne prendrai jamais de gélules de plantes. Pourquoi je... Voilà. Mais c'est ma religion qui me le défend.
Vous nous dites que vous prenez du nifluric. Ça veut dire que là, l'herboristerie trouve sa limite.
Non, c'est-à-dire que, voilà, je suis venu. Vous savez que j'ai pris l'avion pour venir, faire mon émission avec grand plaisir. Mais je suis sous arpagophytum en ce moment parce que je n'ai pas de... Actuellement, à ce bras-là, je n'ai pas d'articulation. Mmh. Et comme le temps de Paris n'est pas le même temps que là-bas, avant de venir, pour ne pas avoir trop mal au bras et au genou, puisque j'ai des broches dans le bras et dans le genou, parce que je suis trop montée à cheval quand j'étais jeune, et trop tombée surtout.
Vous êtes surtout trop tombée.
C'était pas monté, c'était tombée surtout. Eh bien, j'ai été obligée de prendre du nifluril avant de venir parce que j'avais peur d'avoir mal. Et comme moi, j'aime... l'auréole du martyr ne m'empêchera pas de dormir. Hein.
Que pensez-vous, nous demande un auditeur, des herbes du suédois? Je pense qu'il nous parlait aussi.
L'élixir du suédois, j'en ai en officine. Le baume du suédois est très bon. Ça peut très bien remplacer le fameux baume du chinois, là, le dragon ou le.
Oui.
Hein,
le baume du tigre.
Oui, le baume du tigre. J'en ai de ce baume-là. Je m'en sers pour mon fameux genou et mon fameux bras. Et j'ai également, alors, je l'ai sans alcool, je l'ai avec alcool. C'est pas mal, mais je ne le bois jamais.
Ne dites surtout pas que ça existe sans alcool, parce que nos femmes vont nous forcer à prendre la liqueur du suédois sans alcool.
Ah bah si j'avais su, j'en aurais apporté.
C'est un très bon prétexte pour boire un coup de
pastis. Oui, mais vous savez que c'est vraiment pas tellement excellent, je préfère un bon pastis. Hein.
C'est autre chose. Et puis l'auditeur nous pose une question un peu curieuse. Les Anglais sont-ils meilleurs que nous dans le domaine de l'herboristerie?
Ah ben, je ne suis jamais allé en Angleterre.
Allons bon.
J'avoue que je suis... Pas pour l'Europe.
Vous n'êtes pas pour l'Europe.
Je suis pas pour l'Europe.
Vous l'avez bien dit.
Vous l'auriez cru. Je suis qui le dit. Et j'irai en Angleterre, peut-être, mais avec mon accent. J'ai fait pas mal d'anglais. J'ai eu le premier prix intercollège. Je le lis, je l'écris. Je communique mes irrégulaires vers par cœur. Mais quand on m'entend parler avec mon accent, ça va en courant.
Ça doit être drôle quand même. Vous pas de faire une petite démonstration.
I cannot speak English quite well.
Mais comment ça
Mais en Angleterre, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. De toute façon, puisque le latin est un langage universel, si les herboristes anglais donnent des noms latins, se servent de leurs plantes avec des noms latins, moi je peux très bien faire les préparations de ces messieurs ou de ces dames ici.
Puisqu'on en revient à l'aspect sérieux de la question, en ce moment, les jeunes gens et les jeunes filles de bonne famille passent le baccalauréat.
Oui, les pauvres.
Oui, les pauvres, oui, ça, je dois dire que le matin, je me réveille en ce moment avec un sentiment de bonheur que vous ne pouvez pas imaginer en disant, moi, j'ai pas besoin d'y aller.
Et nous l'hume.
Oui, voilà. J'ai même lu plusieurs fois, je peux vous dire, et sans beaucoup de résultats.
Mais écoutez, on passe le bac du sauvage, sinon je puis le passer à 6 mois, parce que nous avons le bac, on le passe très souvent. Pour aller d'une rive de Rhône à l'autre, on le passe le bac.
Mais quand on passe le bac à l'auréat, oui. Y a-t-il des produits à prendre pour exciter l'intelligence, l'imagination et
moi,
tenir le coup?
Moi, je leur donne justement du ginkgo pervenche qui est pour la mémoire, hein, qui leur donne de la mémoire, et de la cérola, et de l'antistress. Dans cet antistress, il y a la fameuse balsamite qui fait rire, qui euphorise un petit peu. Il y a du basilic, il y a du loti corniculé qui développe les pouvoirs psy. Il y a de la balotte, qui est
un peu. Il me disait le l'examinateur.
Là, ma foi, ça dépend de l'examinateur. S'il vaut vraiment la peine d'être hypnotisé, on peut essayer. Mm-hmm. Hein. Moi, j'ai eu mon bac à 15 ans et demi. Je foutais rien à l'école, je vous le dis tout de suite, mais j'ai beaucoup de mémoire. Et c'est ce qui m'a tiré d'affaire.
C'est pour ça que vous avez réussi brillamment, tandis que moi, qui ne l'ai jamais eu, regardez dans quelle situation.
Et vous viendrez le passer chez moi, le bac du sauvage. Je vous y mènerai. Là.
Le bac du sauvage, ça sera avec plaisir. Alors, Marie-Antoinette, on vous voit donc avec tous vos livres.
Dimanche. Vous rendez compte, je pars demain matin. Et je reviens dimanche matin.
Pourquoi vous faites ça? Il fallait rester à Paris. Ça, on peut survivre 3 jours à Paris.
J'ai un fils actuellement qui est à Pise. J'ai 3 chevaux à nourrir. J'ai 4 chiens, j'ai 2 chats, j'ai des oiseaux, j'ai 14 poules, un coq, des oies et de tout. Et mon magasin. Alors comment voulez-vous que je reste? Ils sont malheureux sans moi.
Il doit y avoir des gens qui sont prêts à vous aider là-bas.
Ah, c'est pas le moment, mais non. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à m'aider, ils sont charmants, ils sont gentils. Mais vous savez, je me fais du mauvais sang en pensant que la nuit, mes chiens vont être tout seuls. Il y a des alarmes, il y a des chiens, mais nous avons des visites peut-être intempestives qu'on peut... Pas espérer, mais redouter.
Mais non, vous n'aurez pas de visite. D'abord parce que vous m'avez apporté là un document qui montre qu'il y a des gens qui s'en occupent. C'est un monsieur qui s'appelle Émile Vella, chargé de mission municipale.
C'est épouvantable.
De Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Et il est non, de Saint-Gilles-du-Gard.
Pardon. Et il écrit, alors je vais vous lire sa note.
Ah, j'ai pensé que ça vous intéresserait. Hein.
Madame, monsieur, musulman français, donc ça veut dire que les musulmans français apparemment ne sont ni des madames ni des messieurs. Frères musulmans, ça c'est pour ceux qui ne sont pas français. Pour mieux vivre à Saint-Gilles, il nous faut lutter ensemble contre l'insécurité, le déclin économique de la ville, le chômage, l'abandon de la reconstruction du pont sur le Rhône, agir pour le respect des lois et des individus, pour une cohabitation fraternelle et solidaire entre toutes les communautés, d'ailleurs entre toutes les communautés, donc déjà on sent que l'imprégnation est en train de se faire, pour une meilleure image de Saint-Gilles vue de l'extérieur... De l'intérieur,
Vu de l'extérieur, parce que de l'intérieur, on n'est pas tranquille. Hein.
Pour cela, rencontrons-nous. Je vous y invite et je compte sur vous. Rendez-vous lundi 6 juin, c'est déjà passé, c'est dommage, on y serait allé, à 18h30, salle du conseil municipal à la mairie, en présence de Roland Gronchy.
Gronchy.
Maire, maire de Saint-Gilles, signé Émile Vella, chargé de mission municipale. Et j'espère que les frères musulmans et les Français et les musulmans français et les madames et les messieurs se sont rendus à l'invitation.
Je n'y étais pas, je ne peux pas vous dire, n'y étais pas. J'ai eu peur de sortir, parce que l'insécurité est telle qu'on a peur de sortir dans sa porte.
Alors, pendant qu'on bavardait de choses et d'autres questions sont arrivées, donc je vous pose, puisqu'on a encore 5 petites minutes avant l'intervention de mon excellente camarade Bravura, qui va reparler ce soir, elle aura parlé 2 fois.
Oui, ça va.
On lui donnera de l'acérola, hein, s'il sera fatigué. Hein.
Non, c'est lui qui est fatigué.
Alors c'est à Serge qu'on apportera l'acérola.
Oui, c'est une bonne idée, ça. Mais pas à cause de...
Mais dimanche, je vous amènerai, promis, juré.
Peut-on redonner le nom de la poudre à mettre dans le thé pendant 10 jours pour avoir un coup de fouet?
Acérola. A-C-E-R-O-L-A. 1 gramme par jour pendant 10 jours.
et non pas 10 grammes pendant un jour.
Elle n'est pas les embrouiller maintenant, Serge.
Vous devriez en apporter dimanche, je suis sûre que vous vous en...
Mais je n'ai pas le droit de prendre ailleurs que d'emprunter. Je lui enverrai volontiers, mais je n'ai pas le droit de prendre ailleurs.
C'est Victoria, de ses idées bizarres.
Ah, mais je suis sûre, moi.
C'est une journée du livre, c'est pour une journée de
l'air. Rappelez-vous, les livres. On a chassé les vendeurs du temple.
Hein. Exactement, c'est vrai.
C'est dommage.
Dimanche, on vendra de la culture. D'abord, on vendra pas, on distribuera de la culture en échange d'images imprimées. Quel est le nom de votre invité? Ben, ça, c'est Marie-Antoinette Mulot. Peut-on rappeler le nom de ses ouvrages? Oh, dites-moi, c'est votre attaché de presse qui a en passé.
Derrière. Alors, secret d'une herboriste, réponse à 200 maladies par les plantes. Soignez vos animaux par les plantes, élixir de santé de votre herboriste, terrasse et balcon de l'herboriste, et plantes oubliées et plantes mystérieuses de l'herboriste.
Et vous verrez Marie-Antoinette, et ça vaut le coup de la voir, parce qu'elle est adorable, et elle est...
Si, monsieur... C'est pas comme à la foire du temps, je ne vais pas payer pour me voir. Hein.
Oui, mais nous, on est frustrés.
Et puis, elle est
pourquoi
gentille,
et parce qu'on ne peut pas acheter, on ne peut pas aller chez vous pour acheter les...
Mais j'en vois.
On donnera l'adresse tout à l'heure.
Je travaille par correspondance, moi, c'est mieux que si elle casse un gis, je serais morte de faim. Je serais allé faire la manche, déjà.
Et cette auditrice demande si on peut soigner les bouffées de chaleur par les plantes.
Par les tisanes circulatoires, amamélis, coudrier, millefeuille, vigne rouge, maté, hydrastis et cyprès.
Vous devez aller faire, mais un peu plus vite, c'est dit.
Alors, amamélis, coudrier, millefeuille, vigne rouge, hydrastis, maté, aubépine et cyprès.
Le mieux, c'est quand même de vous écrire.
Déjà, vous m'écrivez,
envoyez-moi ce qu'il faut.
Vous m'écrivez, on vous enverra tout ce que vous
voulez. Et l'acné juvénile, vous y pouvez quelque
chose? Ça se soigne également, oui, ça se soigne également. Qu'ils ont de la chance d'avoir de l'acné juvénile. Je ne veux pas changer les cœurs.
Mais là, il y a quelqu'un qui a moins de chance probablement, une dame qui demande si on peut soigner l'herpès rémanent.
Oui,
à répétition.
Oui, l'herpès à répétition, oui. Ça ne se guérit pas, c'est comme le psoriasis. Ça ne se guérit pas, mais ça se stabilise et ça se blanchit. Sans aller à la mer morte, parce que c'est beaucoup moins cher. Et on a tout ce qu'il faut.
Oui, parce que dans la mer morte, effectivement, on se trempe dans le sel mouillé et on sort le guéri. Les tendinites.
Tendinites aussi, on a tout ce qu'il faut.
Donc on vous écrit, on dit j'ai une tendinite. Pierre Joubert, une tendinite au bras droit, ce qui est très inquiétant pour un dessinateur. Vous êtes droitier, je pense.
Oui. Ah, oui. Je vis avec.
Ben oui, c'est-à-dire qu'elle vit avec vous.
Alors, une auditrice a des candidats albicans depuis plusieurs mois.
Alors ça, votre médecin devrait vous faire faire une isothérapie.
Ce que les médecins m'ont prescrit, ne fait rien.
Une isothérapie, c'est une très vieille méthode, c'est une auto-vaccination. On fait pipi dans un tube, on vous isole le microbe, le laboratoire homéopathique de France ou de l'ISOS, enfin, on vous le fait rien que j'étais par voie perlingoale.
Ah, ben ça, c'est agréable, oui.
Non, mais vous sentez rien, c'est de pilule. Et ça donne de très bons résultats, parce que les candidats, ça se met partout. Hein. Aussi bien à l'appareil génital que dans la gorge que partout.
Quelles sont les vertus Alors, isothérapie.
Isothérapie.
Demandez à votre médecin de vous faire une isothérapie.
Une isothérapie. Et puis, si vous voulez me m'écrire, je vous donnerai tous les renseignements. Mais on ne pique pas avec. On ne pique pas, c'est rien.
Il n'y a pas de piqûre.
Non.
Prélèvement.
Voilà.
Les vertus de l'eutérocoque.
L'eutérocoque, c'est un régénérateur. L'eutérocoque, comme l'acérola. C'est que ce que donnent les Russes à leurs athlètes, ça ne dope pas, mais ça remonte vraiment.
Et pour les dames, ça en donne des beaux athlètes à moustache ou...
Pour les dames, quand elles sont un petit peu trop froides, on leur donne de la sauge. À condition qu'elles n'aient pas l'utérus fibromateux ou des kystes au sein.
Bon. Voilà. Donc, on est prévenus. Et enfin, quelles sont les vertus médicales du miel?
Le miel est plein d'antibiotiques naturels. Et le miel apporte dans l'organisme, dans toutes les parties de l'organisme, apporte cet antibiotique. Vous avez également quelque chose qui est sensationnel, qui est fabriqué par les abeilles, c'est la propolis. C'est formidable. C'est plein d'antibiotiques naturels. Et quand je parle de mon aloès, je mets l'aloès, le miel et le whisky mélangé. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le miel apporte dans l'organisme tout cet antibiotique. L'aloès, bon, à ses propriétés propres. Et le whisky, c'est pour dilater les veines et les artères. Oh, une cuillère à café de whisky.
Bon, voilà. Pas plus. Hein. Combien de fois par jour?
Matin, midi et soir. Une cuillère à tout.
Merci, Marie-Antoinette. Alors,
à dimanche.
On va d'abord donner votre adresse, l'adresse à laquelle on peut vous écrire. Il y a beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui le demandent.
Alors, c'est Herboristerie Provençale, Madame Mulot, M-U-L-O-T, très écologique comme Laura.
C'est plus mignon quand même.
1 rue Porte, comme une porte qui se porte de la Blanque.
Porte de la Blanque.
Blanque comme la Blanquette, de la Blanque, Cuille. 30 800 Saint-Gilles. 30 800
Saint-Gilles.
Voilà. C'est entre Nîmes et Arles, 18 km de Nîmes et 18 km d'Arles.
Et cette adresse, vous la rappellerez dimanche.
Oui, ben, si c'est encore dans la
grande fête du livre de Radio Courtoisie. Je voudrais donner la parole à une auditrice qui dit Monsieur Chirac est un ancien scout aussi respectable que Monsieur de Vecchetch. Et je n'ai, dit-elle, jamais entendu Monsieur Chirac critiquer Monsieur de Vecchetch.
Ça viendra. Ça viendra.
C'est vrai que c'est une bonne raison pour que je dise pas de mal de Chirac. Il n'a jamais dit de mal de moi. L'ennui, c'est que vraiment, je n'aurais plus grand monde.
Il y a une grande différence entre Monsieur Chirac et vous.
Oui, il y a au moins 20 centimètres.
Voilà, c'est ce que je voulais dire.
Merci, madame. Alors, ma chère.
Marie-Josée, qui a déjà parlé une fois.
Vous avez des choses contre les pertes de mémoire?
Mais oui, c'est ce qu'il faut.
Bon, ça va.
Tout, une copervanche. Ouais. Écoutez, seulement, il faudra que je vienne alors avec un cabas.
Oui, pour moi, oui. Je crois qu'il me faudra au moins la tonne mensuelle que vous achetez. Donc, ma chère Marie-Josée de Bravoura, puisque nous sommes dans la provocation, ben, allons jusqu'au bout. Vous venez nous voir régulièrement. Ça a été suspendu pendant 2 mois pour cause de mauvaise santé, mais de ma part. Et ça recommence maintenant. Vous nous faites un petit portrait d'un artiste. Est-ce que c'est un grand artiste ou pas? Est-ce que c'est de l'art ce qu'il fait ou pas? Alors, on avait commencé par Picasso. Et puis maintenant, on va passer à quelqu'un qui est légèrement différent et qui était sculpteur et qui s'appelait Arnaud Brecker. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser d'Arnaud Brecker? Est-ce qu'il faut en penser ce qu'en pensent les gens qui sont politiquement corrects, c'est-à-dire que c'était un nul, que c'était un gros plouc de la sculpture, un pâle imitateur des plus mauvais sculpteurs grecs, ou est-ce qu'il faut penser que c'était un grand sculpteur du début du siècle et de la première moitié du XXe siècle?
Arnaud Brecker, je suis obligé de faire une réponse de Normand parce que lui, c'est une victime. Ça veut dire qu'Arnaud Brecker, ça n'est pas l'œuvre qui est en cause, c'est l'homme. Donc il est le prototype de ce que je refuse absolument, ça veut dire une politisation de l'art. Et Arnaud Brecker n'est ni l'un ni l'autre, ça veut dire qu'il est honni par les gens politiquement corrects. Et il est adoré, non moins adoré, par ce qu'on appelle la droite extrême.
Or, ce n'est pas des bonnes raisons.
Ben non, ce ne sont absolument pas de bonnes raisons, ni pour les uns ni pour les autres. Ça veut dire qu'à un moment donné, Arnaud Brecker a été effectivement un excellent académiste. Lorsqu'il a fait du buste, il était excellent parce qu'il était précis, rigoureux, exact, avec des reliefs à peine exagérés qui lui donnaient une très grande force. Lui reproche, parce que ça me manque qu'il n'y ait pas de regard comme le faisaient les académistes autrefois, parce que réellement je trouve que dans un visage le plus important c'est le regard et l'âme. Donc quand on se prive du regard, on se prive de beaucoup de choses, et il en a fait très peu avec des regards. Il avait une très grande puissance, exact aussi. Maintenant, ces modèles ont été très souvent, par ses goûts personnels et privés, de jeunes et faibles qui étaient très musclés. Bon, je n'ai rien contre les jeunes et faibles musclés, mais enfin, n'avoir que ça, c'est quand même un petit peu pauvre comme source d'inspiration. Et lorsqu'il a voulu, à la fin de sa vie, faire moderne, ça veut dire simplifier les lignes, là, il est tombé dans quelque chose de tout à fait médiocre, parce qu'en fait, il a juste rajouté à certaines lignes quelque chose de décor qui faisait un peu début du siècle. Donc, il a mal vieilli, ce qui est dommage. À mon avis, au début de son œuvre et au milieu de son œuvre, il était infiniment meilleur que lorsqu'il a voulu changer de genre. Donc, vous parliez tout à l'heure avec ce monsieur de la différence entre artisan sculpteur ou artisan peintre et maître peintre ou maître sculpteur. C'est la même chose. Ça veut dire que c'était un excellent reproducteur statuaire. Il n'a pas mis énormément de personnalité. D'ailleurs, quand on recherche aussi bien en France qu'en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, on retrouve ce genre et cette manière de faire des bustes académiques. Les siens étaient parfaits.
Notamment en Russie, où à l'époque stalinienne, il y a eu quand même aussi.
Exactement, ça c'est. Mais vous savez, à un moment donné, c'est d'ailleurs passionnant de refaire une recherche sur l'environnement, aussi bien politique par rapport à l'art et à la création, parce qu'ils ont tous à peu près les mêmes qualités et les mêmes défauts. Donc, ce pauvre Arnaud Brecker ne doit pas être ni jeté au ruisseau, ni encensé comme étant le dieu de la sculpture. Non, c'était un très bon sculpteur à qui on peut reprocher certaines choses, certains manques, certaines faiblesses, et qu'on peut encenser pour une immense rigueur et une très grande force. J'ai parlé vite, hein, parce que comme je parlais pour la deuxième fois, je voulais surtout pas vous prendre trop de temps.
Marie-Josée, surtout, vous n'avez rien dit de grave.
Non, j'ai fait très attention.
Il faut dire que par ailleurs, non, mais il faut quand même maintenant préciser pour être politiquement correct, que en dehors de ces aux activités artistiques de sculpture, M. Arnaud Vricat était quelqu'un de très 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 méchant.
Eh bien, normalement, dans certains milieux, on ne doit pas plus prononcer Arnaud Brecker. On peut dire Arnaud, mais pas Brecker, comme on peut dire Jean-Marie, mais pas le reste.
Voilà. J'ai oublié de préciser que Marie-Antoinette, tous les livres de Marie-Antoinette étaient publiés aux éditions du Dauphin. C'est facile à retenir. Alors, vite, quelques annonces. Je vous invite à consulter le 3615 Royauté, qui se développe sans cesse, qui est un très très bon Minitel d'union des royalistes en France. Et vous pouvez également, si vous n'avez pas le Minitel, vous renseigner par téléphone au 36 68 17 94, 36 68 1794. C'est assez facile à retenir. Je vous rappelle que mercredi 29 juin 94 à 19h, le prix Lysenko sera attribué dans les salons de l'Étoile 38 avenue de Friedland par le Club de l'Horloge, tout renseignement au 42 94 14 14. Je vous indique que le Chœur Montjoie Saint-Denis organise une veillée de prière le jeudi 30 juin à 20h30 en l'église de Port-Marly, rosaire chanté à l'intention des malades. Les cassettes des Mystères Glorieux sont en vente à 50 francs plus qu'un franc de port. Vous pouvez les commander au Chœur Montjoie Saint-Denis, chez Valérie, 21 rue Campagne Première, 75 014 Paris. D'ailleurs, le mieux, c'est d'aller dîner ou déjeuner chez Valérie, qui est un restaurant excellent, tenu par une dame charmante, qui s'appelle Valérie Delahaye, la mère agitée. Donc, je vous rappelle l'adresse, 21 rue Campagne Première, 75 014 Paris. Et en sortant du restaurant, vous achetez les cassettes du Chœur Montjoie. Si vous ne voulez pas aller chez Valérie, vous pouvez aller chez la Zaco, où je vous rappelle qu'il y a un excellent pot-au-feu aux crudités qui est une pure merveille. Et puis quand vous aurez fini, pour vous reposer au moment de la sieste, vous pouvez prendre le Libre Journal de la France Courtoise. C'était notre page de publicité. Le Libre Journal de la France Courtoise qu'on peut se procurer en écrivant 139 boulevard de Magenta, 75 010 Paris. Dernière chose, le numéro du Crapouillot, on peut le commander moyennant 45 francs franco, 21 rue Tranchet, le formidable numéro consacré à l'affaire de l'Observatoire. Je suis obligé de donner cette nouvelle adresse parce que j'avais donné une fausse. 21 rue Tranchet, le Crapouillot.
Puis le Centre Charlie et Chrétienté Solidarité, pèlerinage de chrétienté, appelle cette année à un rassemblement et une marche vers Livière pour y vénérer les reliques de Sainte Clotilde. Alors, déroulement de la journée, rendez-vous à 9h30 à la gare de Villers-Cotterêts dans l'Aisne, marche en forêt, messe à 11h30, suivi d'un déjeuner, évocation historique, départ pour Livière à 14h30. Alors, il est possible pour les personnes qui ne souhaitent pas marcher de se rendre directement avec leur véhicule à la messe dite pour la confrérie par le Père Germain du Barou à Vivière à 11h.
Alors, ah, ça se passe, il faut le dire, ça se passe quand, cette grande marche-là?
C'est mal écrit.
Bon, alors, tout renseignement au 4633-18-97. 4633-18-97 pour les renseignements sur le pèlerinage de Vivière.
Alors, je rappelle, pour Afrique réelle, le dossier du Rwanda, numéro 4, 150 francs, 360 francs l'abonnement, boîte postale numéro 6, 0340, Charroux. Madame Mulot, c'est ça. Téléphonez à 66 87 03 27, édition du Dauphin.
Oui, mais c'est ça,
édition du Dauphin.
Alors, attendez, oui. je me permets
non,
de vous
mais
dire.
On a plus
un mot quand même.
9 à 12 et 15 à 19.
Oui, pour les téléphones.
Très bien. Et puis,
ça y est,
bon, il faut des annonces. C'est pas possible, on des annonces. Alors ici, Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz, 6, à Caen sur 100 MHz, 6, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le Libre Journal, vous venez d'écouter le Libre Journal de Serge de Bekech. Diffusé, je sais plus où j'en suis, moi, en direct le mercredi 22 juin de 18 à 21h, en différé le jeudi 23 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez les deux cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En envoyant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Notez bien l'adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, le pèlerinage de Vivière qui est organisé par le Centre Charlier, c'est le 26 juin 94, et je vous rappelle que samedi, nous serons tous à Riomont, c'est-à-dire à Liévin, dans la ville de Liévin, au village de Riaumont, pour assister aux grandes festivités à 16h. Bonne semaine à samedi donc à Riaumont et à dimanche à la Mutualité, et d'ici samedi et dimanche, que Dieu nous garde. La gloire est la matrice, que l'éternel.